Traitons un peu le jour du poney.
C'est bien le quatrième épisode, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
C'est ça. Allez, bienvenue au podcast de l'œil carnivore. Donc, on s'est bien décidé. C'est bien le quatrième en date. On est le 14 avril 2013 tout de même. C'est la première fois qu'on peut ouvrir la fenêtre pour parler ici autour de la table. Il fait quand même plus de 20 degrés aujourd'hui. L'été est là, enfin. Et comme d'habitude, on a tous nos chroniqueurs habituels de l'œil carnivore. On commence par Damien.
Bonsoir.
En forme ?
En forme. C'est vrai qu'il fait beau et c'est agréable. On est en t-shirt et je crois que ça faisait.
Ouais, on a été vendre des bières toute l'après-midi.
Ouais.
Voilà, pour la bonne cause. On est de retour. C'est tout nu, en effet. On vous passe. Heureusement qu'on n'est pas en live vidéo.
Heureusement ou malheureusement.
Bientôt, bientôt. Luc également à sa gauche.
Oui.
En forme.
Toujours.
Toujours, toujours. Darby qui est de retour pour la troisième fois aussi.
Oui.
Toujours avec sujet musical.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, on va venir ça tout de suite. Et puis, eh bien, Sylph.
Salut.
Wow, c'est plus calme que ce qu'on s'attendait. Hein.
Alors moi, je voulais poser une question. Comme c'est le quatrième, c'est la revanche, c'est le retour ou c'est quoi?
C'est le fils de la revanche du retour.
Ouais. Non, mais Rocky, le 4, c'était quoi?
Le fils de la revanche du retour, c'est pas mal, moi je trouve.
Ah ouais, ouais.
Parfait, parfait.
C'est le fils de la revanche.
Bon, alors avant de commencer par le sommaire de ce qui nous attend, parce qu'on a pas mal à raconter, eh bien Damien se sentait d'humeur inspirée pour nous écrire un chouette petit édito. Donc il va nous dire d'une traite, sans interruption, hein, d'accord. On va essayer de faire la transition avec le sommaire. Donc Damien, on t'écoute.
Merci de m'avoir lancé comme ça. Alors, si je me lance aujourd'hui dans un édito, exercice périlleux dont je suis néophyte, c'est que je suis triste. Triste parce que Fred, auteur de l'imaginaire dont je vous ai parlé lors du dernier podcast, est mort. Salut l'artiste, tu nous manqueras. Triste parce que LucasArts, le studio mythique qui nous a donné certains des meilleurs jeux des années 90, ferme ses portes après avoir été racheté par Disney. Une pensée pour les 150 employés qui viennent de perdre leur boulot. Triste car l'affaire de Cahuzac, lui aussi triste sire, il est vrai. Donc, cette affaire Cahuzac masque le vote, le 9 avril dernier, de l'accord national interprofessionnel qui détruit une bonne partie des droits du travail en France. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cet accord, faites une recherche avec les mots-clés Annie et Gérard Filoche. Voilà, j'en dis pas plus. Triste surtout parce que la communauté dit geek est sexiste. Dans le plus sens.
Non. Ah,
si. Dans le sens le plus abject du terme. Je l'ai découvert avec effarement grâce à l'article de Marlard, qui nommait « Sexisme chez les geeks, pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier ?» Un côté obscur dont je ne soupçonnais, j'avoue, pas grand-chose. Au-delà des bimbos aux gros seins, caricatures féminines, c'est clair, qui peuplent les jeux vidéo, ce qui est déjà très discutable, c'est la violence de certains envers les femmes qui m'a écœuré. Canard PC, on a fait un dossier très complet dans son dernier numéro. Le site Arrêt sur Image propose une émission sur le sujet avec Marlard en invité. Je vous conseille vivement de les consulter et de découvrir l'ampleur du problème. Je n'ai qu'une chose à dire en citant le grand poète Renaud à ces types qui se croient très forts derrière leur écran. Toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre.
Ouais, bon, c'est un vrai coup de gueule que tu viens de taper contre le sexisme, hein.
Complètement, oui, mais je vous conseille d'aller voir ces articles, d'aller les lire, et je pense que vous en viendrez pas indemne.
Mais quoi, c'est un sujet à la mode, on le voit revenir dans plein de magazines, sites, blogs et autres.
Oui, parce que...
C'est Tomb Raider qui a amené le sujet sur la table ou...
Oui, c'est vrai qu'il y a l'affaire de Joystick et Tomb Raider qui avait déjà défrayé la chronique l'été dernier, mais c'est surtout l'article de Marlard qui est extrêmement bien documenté. Et derrière, d'autres qui ont repris le relais, comme Canard PC, comme Arrêt sur Image, qui sont vraiment renseignés sur savoir ce qui se passait. Et ce n'est pas seulement des effets à droite, à gauche, ou on va dire du sexisme ordinaire, mais il y a vraiment des choses glauques qui se passent. Et je pense que... Si jamais vous êtes témoin de ça, il faut tout de suite le dénoncer, tout de suite l'arrêter. Et,
comme toi dans ce podcast.
Voilà, comme moi dans cet édito. Mais bon, on va passer à des choses plus joyeuses.
Mais oui.
Donc aujourd'hui, on va vous parler de jeux vidéo, on va vous parler de musique, on va vous parler d'une série britannique bien étrange avec Luc, on va vous parler de... d'hologramme avec Darby.
Bien sûr.
On va avec moi parler de Claude Atlas, un film magistral. Et avec Sylph de manga, en veux-tu, en voilà. Surtout des mangas qui ont des suites dans les idées. Voilà.
Ouais. Bon, on commence par quoi, les games?
Oui.
Pour se remettre d'humeur?
Ouais.
Allez, on est parti. Alors, jeux vidéo, forcément, on ne pouvait pas passer à côté de la sortie de BioShock Infinite. C'est beau, hein, dit en français comme ça. BioShock Infinite avec Luc et Sylph qui se sont prêtés au jeu.
Ouais.
Qui commence ?
Forcément.
Luc. Je laisse Luc.
Ouais, parce que je sens que c'est les choses. J'ai travaillé sur le chemin pour venir jusqu'ici, donc à mon avis, il va pas se ménager, et pas me ménager non plus. Donc, on a joué tous les deux à BioShock Infinite et
les trois même.
Trois.
Il y a joué aussi.
Pour tout dire, j'ai joué à peu près les 10. Bon, allez. Les 15 premières minutes, je n'ai même pas tiré encore un coup de feu. J'ai juste vu la beauté du jeu et l'ambiance qu'il peut y avoir. C'est tout.
Oui, il faut quand même ça. Il faut quand même savoir que Damien a acheté le jeu parce qu'il y avait une promo sur Steam avec laquelle on recevait XCOM.
XCOM, ouais.
Et donc il a acheté BioShock Infinite. Parce que
j'ai dit, moi, c'est aussi pour
et il n'a jamais joué
acheté.
Encore. Mais il a beaucoup joué à XCOM.
Oui, donc je parlerai juste après, d'ailleurs.
Bien.
Mais donc voilà, donc, on y a joué pas mal et on l'a terminé, évidemment. Et moi, franchement, j'en ai pensé vraiment beaucoup du bien. Par contre, contrairement à ce qu'on entend dans tous les coins, ça fait beaucoup de foin, ça fait beaucoup de remous pour finalement un jeu qui ne mérite pas tant que ça les lauriers qu'on lui prête. C'est un bon jeu, c'est un jeu qui est vraiment agréable à jouer. L'histoire, comme dans, en tout cas pour moi dans le premier BioShock, emporte bien le joueur et le mène jusqu'au bout de l'aventure. C'est vraiment très agréable à ce niveau-là. Évidemment, il y a des faiblesses, et c'est bien ça d'ailleurs que je souligne en général quand je parle de ce jeu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui se répètent depuis le premier, comme par exemple le choix de ne pas mettre l'accent sur l'arsenal, on va dire, dans le jeu. Les armes sont quand même... Le feedback est mou. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup d'armes. On a toujours un peu puni avec les armes dans les BioShock.
Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit pitch par rapport au premier ou à la série BioShock, le principe de la série, justement, le thème ?
Le thème varie, hein, parce que dans le premier et dans le deuxième, on est resté sur le même scénario. C'était donc, depuis le début, c'était un personnage qui débarquait un peu... Le coup classique du scénario, il est amnésique, on sait pas trop, on découvre avec lui. Et donc il se retrouve dans une cité engloutie, dirigée par une sorte de tyran qui règne un peu en dieu sur cette cité-là. Et il évolue à travers cette cité et finalement découvre avec le joueur pourquoi il est là. Il trouve des alliés qui sont pas forcément toujours ses alliés non plus. Il y a une petite question de moralité qui s'installe dedans aussi. Ce qui fait énormément dans la série BioShock, c'est l'ambiance. Il y a une reconstitution là-dedans qui est au début du XXe siècle, qui est absolument phénoménale. Mm-hmm. Le souci du détail, la musique, la propagande, tout l'esthétisme de jeu fait que c'est un très bon jeu et une direction artistique absolument irréprochable pour ma part. Et le deuxième était plus une redite. Il portait bien son numéro 2. Mm-hmm. Et dans le troisième, on change de nom. On n'est plus sous la mer, on est dans les cieux, on est dans les nuages, avec une cité qui a pris un peu
son envol,
son envol, mais surtout qui a été mis un peu en avant comme une espèce d'évolution technologique, une espèce de vitrine technologique de l'époque,
ouais.
Et qui finalement a été utilisé comme outil de propagande, et puis qui a été oublié, qui est devenu un peu rebelle et qui a disparu. Dont les États-Unis, en l'occurrence, ne veulent plus trop entendre parler, donc on la relègue dans un tiroir.
Moi, je dois dire, j'ai joué les 15 premières minutes. Au début, on est vraiment perdu. Je pense que peut-être qu'on comprend au fur et à mesure de quoi, etc. Mais ça m'a fait vraiment penser à un certain nombre de jeux des années 90, de type Myst et autres, où t'es balancé dans un espèce d'univers au début et tu comprends pas grand-chose au début. Tu rassembles les puzzles, tu sais même pas ce que ton personnage fait là. Voilà.
Moi, je vais juste dire un truc. En fait, j'aurais préféré le jeu si ça avait été un Myst.
Oui, bah pourquoi, oui.
Donc sans vraiment, juste pour se balader dans l'univers, sans mission, sans quête, sans
rien. Je trouve que le gameplay, il est pas...
Ah, à ce niveau-là, oui.
En fait, c'est même incompréhensible, tu fais que buter tout le monde. T'as des gars qui arrivent, c'est divisé en arènes. C'est finalement pas très bon, alors que le scénario qui est derrière est juste exceptionnel.
Mais justement, c'est bien pour ça que j'ai aussi du mal à comprendre l'engouement d'une grosse partie de la presse. Parce que finalement, c'est des couloirs, c'est très dirigiste. Les autres l'étaient aussi. Mais ici, on sent vraiment les rails.
Grosse tendance actuelle, hein, surtout des licences qui sont en train de bousiller.
Ouais, mais ici, ça va. Ça va, mais on le sent clairement derrière. Alors, clairement, on arrive au bout du couloir, on a une arène, on se tape les vagues de mobs ou le boss, et on passe au suivant. On a, comme tu disais tout à l'heure,
les ascenseurs.
Hop, on passe au chapitre suivant parce qu'on a pris l'ascenseur. Les allers-retours, pour tirer un peu aussi sur la corde, pour pas faire trop de level design, on fait des allers-retours dans tous les sens, qui sont quand même parfois un peu longs. Par contre, je dois dire que j'aime pas en général être pris par la main quand je joue à un jeu. J'aime bien pouvoir avoir une espèce de liberté, même si elle est toute relative. Et dans le premier, je m'étais vraiment fait retourner comme une carpette avec le scénario. Je veux dire, quand je suis arrivé à la fin et qu'on comprend, je vais pas gâcher le plaisir à ceux qui auraient...
Le twist était très bon.
C'était vraiment très bon. Ici, on sent le truc arriver, parce que si on a déjà joué aux autres, on sait qu'on risque d'avoir quelque chose qui nous attend au tournant. Et malgré tout, j'ai quand même été surpris à ce niveau-là. L'utilisation notamment d'Elisabeth, qui est le personnage qui suit la jeune fille qu'on voit d'ailleurs sur toutes les promos, qui suit en fait le personnage principal, qui est passive en général pendant les phases d'action. Mais elle est passive intelligemment, c'est-à-dire qu'elle sert de support à fournir des boosts, des munitions, des choses comme ça, un peu d'argent de temps en temps. Et finalement... quand on y joue la première fois, on n'essaye pas forcément la difficulté la plus importante. Il est relativement simple. Moi, je crois que je l'ai torché en 10 heures en difficile. Je l'ai testé en 1999, qui est la difficulté qui se débloque normalement quand on a terminé la première fois. Là, il y a quand même du challenge, mais on sent que c'est forcé, quoi. On ne ramasse plus rien sur les corps, on ne peut plus rien s'acheter.
Les ennemis te ratent jamais.
Les ennemis sont juste... Enfin, c'est pas normal. Il sent bien qu'on l'a fait exprès, quoi.
Vous avez joué sur quoi ? Sur PC ?
Sur PC.
Ok.
Sur PC, moi je touche pas aux consoles. Moi.
Mais c'est peut-être justement le défaut de ce jeu, en fait. C'est que c'est un jeu fait pour la console et ça se sent tout du long, que ce soit au niveau de l'interface, des trucs, des choses comme ça.
Je sais pas. Peut-être.
Maintenant, après, faut pas cracher dans la soupe non plus. Hein. C'est tellement beau, c'est tellement un voyage incroyable.
Ah, c'est sûr. Hein. Moi, je me suis fait promener. C'était une très belle balade, en fait. C'était vraiment une chouette balade.
Mm-hmm. Oui, en fait, ce qui est gênant, d'après ce que je vous entends, c'est le fait, c'est le côté gunfight.
En fait, c'est le FPS qui pêche derrière
de
temps.
Le côté gunfight n'est en soi pas mauvais. Le problème, c'est qu'on a le même phénomène que dans Crysis 3. Alors là, je sens qu'il y en a qui vont vouloir me tuer, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est la structure qui est hyper prévisible. Et du coup, c'est bien dynamique, hein, quand il y a des gunfights, ça passe et tout, mais c'est pas non plus... t'as l'impression de jouer à Call of Duty, quoi.
Ouais.
Avec des trucs en plus, hein, mais... Limite, je trouve même que la série des Call of Duty, elle pêche moins sur certains aspects. Il y a un de mes potes qui disait qu'on a l'impression tout le temps qu'on est limité techniquement à cause du moteur utilisé. Enfin, je parlais à Luc tout à l'heure de ça, mais le dernier Tomb Raider, j'ai pas du tout ce sentiment que tout est prévisible. Tu vois, il y a des trucs qui se passent dans le décor, des trucs qui se passent, des machins, mais c'est pas des cinématiques. Là, c'est des cinématiques et je trouve ça un peu dommage. Et au final, c'est pour ça que je disais, je préférais que ce soit un mist, parce que finalement, t'aurais assisté à une espèce de magnifique cinématique avec des décors de dingue tout le long du jeu et t'aurais pas été emmerdé par des allers-retours débiles, des gunfights qui sont plutôt vraiment pénibles par moments. Et voilà, quoi. Et t'aurais juste eu un jeu avec un scénario génial et des graphismes géniaux. Et
vous voilà. Le conseillez au final ou pas?
Oui, moi je le conseille. En fait, mais peut-être pas à 50 euros.
Voilà.
Et sûrement pas avec un season pass.
En fait, je pense qu'on peut l'acheter à 50 euros si on sait à quoi s'attendre. Si on s'attend pas à un Doom-like, déjà il n'y a pas de multi, enfin des trucs comme ça. Donc je pense qu'ils se rendent compte aussi de la faiblesse du truc. C'est un jeu maintenant qui a été commencé il y a 5 ans. Je crois que c'est peut-être dû à ça aussi, tout ça. Mm-hmm. Maintenant, moi, je le recommanderais quand même parce que c'est quand même graphiquement une telle prouesse esthétique. C'est tellement génial, je veux dire. Je sais pas si t'as remarqué, il y a des petits détails assez amusants, notamment, il y a des failles qui s'ouvrent un petit peu partout, je vous dirai pas pourquoi. Mais alors, à un moment, il y a une faille qui s'ouvre dans laquelle on entend du Madonna. Et en fond, on récupère une espèce de capteur de son qui explique en fait qu'un gars félicite une autre, un musicien parce qu'il a réussi à sortir un morceau absolument génial. Et en fait, on se rend compte en fait en écoutant le morceau du gars que c'est du Madonna mais fait comme dans les années 20. Et des trucs comme ça.
Ah, derrière, si, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une vraie recherche. Si on gratte, il y a énormément derrière les scénaristes. Ont pas été pêcher ça de n'importe où, quoi. C'est pas tombé tout cuit.
Non.
Notamment, si vous accrochez à l'ambiance et un peu au côté mégalomane de certaines des cités qui sont utilisées pour illustrer le premier et surtout le Infinite ici, c'est l'inspiration vient notamment de Ken Levine qui était le créateur du jeu et aussi qui a écrit une grosse partie du scénario qui vient de Ayn Rand, je crois, qui est une russe naturalisée américaine qui a écrit et qui est à l'origine d'ailleurs de l'objectivisme, je crois, comme mouvement de pensée. Et l'espèce de mégalomanie qu'on retrouve surtout dans le premier, quand on arrive face, on rentre dans le phare, on arrive
ouais,
face
c'est impressionnant, une morte, c'est clair,
comme ça, avec un slogan l'homme est au centre de tout, et c'était vraiment un peu ce qui résumait sa pensée. Et allez vous renseigner donc sur Ayn Rand, donc ça s'écrit AYNRAND. Et elle a fait des choses vraiment très très intéressantes si vous voulez gratter un peu plus loin. Quoi.
On mettra le lien sur le site.
Ouais.
Enfin, en finalité, moi je dirais que c'est un univers génial, un scénario génial, vraiment, enfin voilà. Mais je trouve pas que ce soit réellement un bon Doom-like.
C'est pas un bon FPS.
Ouais. Voilà.
C'est pas un très mauvais, mais c'est pas.
C'est pas un très mauvais, mais c'est pas non plus. Voilà.
Voilà.
Great. Eh bien, okay, un grand merci à Luc et à Steve donc d'avoir testé ce jeu aussi. Damien, tu nous en diras un petit peu off aussi ce que tu en as pensé. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont acheté le jeu un peu sur un coup de tête parce que c'est le BioShock, il faut l'avoir essayé, etc. Et c'est vrai qu'ils l'ont torché de A à Z sans s'arrêter. Quoi. Ils ont été pris par le mouvement.
Ouais, c'est un beau voyage. Une fois qu'on rentre dedans, on est bien. Mais à la fin, ça peut devenir un peu répétitif. Je suis sûr que
moi, ça m'a saoulé.
La majeure partie des gens trouvent que la fin est un peu trop répétitive. Ouais.
Bon, ben attendons donc une promo Steam ou autre, hein, comme c'était le cas ici. Donc
si vous voulez jouer à un autre jeu, voilà. Comme Damien, vous l'achetez.
On va attendre une petite baisse de prix ou une bonne réduction à 50%. Voilà, on va parler de XCOM tout de suite avec Damien. Damien, on t'écoute.
Oui. Donc effectivement, moi, j'ai acheté les deux en même temps parce que c'était une promo pour 50€. Je sais plus, c'était un truc dans ce genre-là, je crois, 50€. Il y avait les deux jeux, donc ça faisait 25€ chaque jeu. Deux gros jeux qui normalement sont vendus à 50. C'était la bonne affaire du moment. Et au lieu de jouer à BioShock, j'ai joué à XCOM. Et pourquoi j'ai joué à XCOM? D'abord parce que je me souviens des XCOM des années 90 qui avaient été faits par Microprose, et je me souviens avoir bien scotché dessus à l'époque.
Ça s'appelait UFO, si je me rappelle bien.
UFO, ouais. Et c'était chouette. Alors le principe de XCOM, c'est quoi? C'est les extraterrestres qui arrivent sur la Terre et les différents gouvernements se regroupent au sein d'une agence XCOM pour lutter contre cette invasion. Donc en gros, vous dirigez XCOM et vous envoyez des hommes sur les endroits où les aliens ont atterri ou attaquent les humains, etc., etc. Et puis vous construisez une base. Pour étudier les technologies aliens, pour repérer les vaisseaux aliens qui arrivent, etc., etc., etc. Et là, c'est Firaxis qui a repris le flambeau. Firaxis qui, notamment, c'est eux qui sont derrière la série des civilisations, etc. Donc, c'est pas des petits, des petits nouveaux. Ils ont fait du beau travail. De manière générale, alors on peut regretter certains côtés un peu hardcore qu'il y avait dans la version des années 90, mais quand même, je trouve que là, il y a une certaine fluidité dans le jeu. Le plus gros du jeu, c'est on envoie en fait des troupes sur un endroit où les aliens ont atterri et on doit combattre les aliens et les attraper ou etc. les capturer ou alors exfiltrer un humain ou défendre les civils qui sont là, etc. Donc voilà, et ça joue au tour par tour. Donc c'est vraiment, on a un certain nombre d'actions par personnage et on doit
on doit se prémunir des attaques extraterrestres, mais aussi réussir à les dégommer avec les armes qu'on développe, etc., etc. Donc c'est assez prenant, c'est au tour par tour, donc c'est à chaque fois on se dit « Ah bah tiens, je vais faire un tour de plus, et puis un tour de plus, puis un tour de plus, puis un tour de plus. » C'est des coups à terminer à 3h du matin. C'est horrible ces jeux-là. Voilà, bon, visuellement, c'est pas le... Là, on est loin du BioShock. Le moteur, il est un peu la ramasse. On peut regretter un petit peu qu'il n'y ait pas plus de découvertes extraterrestres possibles et des choses dans ce genre-là. Il y a quelques trucs de gameplay, genre, ça ne sert pas à grand-chose de développer des scientifiques, etc. Parce qu'en fait, naturellement, tu vas tout découvrir et au bout d'un moment, tu vas même aller plus vite. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc il y a peut-être quelques petits équilibrages à faire, mais je trouve que pour un coup d'essai de Firaxis, c'est vraiment du bon boulot, c'est du bon travail. Il y a un scénario de base qu'on suit, alors moi je ne l'ai pas encore terminé, mais j'en suis au troisième mois, au quatrième mois, ou au cinquième, je ne sais plus. Mais qui est assez sympa avec pas des bouleversements, ça n'a rien à voir avec BioShock, on est bien d'accord. Mais bon, ça tient en haleine et voilà, tu as envie de savoir. Je me demande par contre si... J'y rejouerai plusieurs fois, en fait. Une fois que j'aurai terminé le scénario, etc.
C'est long comme jeu.
Ouais, c'est long. Donc, je me demande... voilà. Mais, en tout cas, chouette jeu. Peut-être pas acheté à 50€ à l'heure actuelle. Pareil. Parce que... Voilà, sauf
il
si vous êtes
à 50 euros.
Ouais, il est à 49, un truc en genre là.
Il est encore à ce prix-là ?
Je sais pas. Ouais, 48. Bah, moi, je l'ai vu à ce prix-là. Ouais.
Ah ouais. En bas, c'est pas donné. Hein.
C'est une bonne promo quand même.
Bah, ouais, c'est une sacrée bonne promo. Peut-être pas à ce prix-là, parce que pour moi, il a pas la gueule d'un AAA, il a pas la gueule d'un BioShock ou autre.
Ouais, mais n'empêche qu'il a quand même ce petit truc. Moi, j'aime bien ce jeu parce qu'il est exigeant. Et mine de rien, il y a beaucoup de jeux qui sortent ces derniers mois et qui ne le sont pas du tout. Et ça fait plaisir, en fait.
Mmh. Ouais, ça, c'est vrai que les combats sont, pardonnent pas si on fait une erreur ou quoi que ce soit. Et donc, et on s'attache à ces soldats, vraiment. et quand il y en a un qui meurt, on est là, non, merde. D'ailleurs, des fois, il y a les autres personnages autour qui peuvent paniquer et tout, etc. George.
Ah, tu te fais ton propre film, c'est ça qui est énorme.
C'est ça qui est énorme. Mais franchement, tu t'y attaches à ces personnages.
On se retrouve en train de pleurer. Pourquoi
et je vous conseille vraiment, évidemment, vous pouvez sauver quand vous voulez. Donc, évidemment, si un personnage meurt, vous pouvez reprendre la sauvegarde.
Ça dépend du mode.
Oui, ça dépend du mode, mais je vous conseille justement de, si un de vos personnages meurt, il meurt, et puis vous continuez comme ça, et vous essayez quand même d'y arriver. C'est d'autant plus intéressant, parce que ça vous oblige aussi à renouveler vos équipes, à faire que vous ayez d'autres soldats qui sont capables de prendre la relève, etc. Mm-hmm. Moi, ce que je fais, typiquement, c'est que je prends 4 vieux de la vieille, ou 5 vieux de la vieille, et puis je prends un ou deux petits jeunes à côté.
Ils vont crever, quoi.
Mais non,
vont faire la relève.
Mais c'est... bah, il faut qu'ils apprennent. Mais je peux vous dire qu'à la fin, là, l'endroit où je suis, c'est l'horreur. Parce qu'il y a des espèces d'énormes robots géants qui, si tu les laisses tirer, balancent des roquettes de partout, des rayons, machin, etc. T'as intérêt à avoir du lourd en face. Et effectivement, si une fois, je me suis retrouvé, parce qu'ils étaient tous blessés après une sortie, et je me suis retrouvé peut-être avec un colonel, donc un vieux de la vieille, et puis sinon que des sergents, caporal ou même soldat de base. J'en ai chié, mais alors j'ai cru que j'arriverais jamais au bout, quoi. J'ai perdu 2 hommes, ça a été catastrophique, quoi, parce qu'ils savent pas bien tirer. Quand il y en a un qui se fait dégommer, il panique, etc. C'est...
Ok,
quand il panique, il tire sur tes gars.
Après, ce qui est chouette, c'est que toi-même, tu peux commencer à avoir des pouvoirs psioniques comme les extraterrestres. Et à ce moment-là, tu peux faire paniquer les extraterrestres, tu peux les contrôler et tout. Ouais, je vais pas spoiler, mais
ça existe dans les enfants. Tu les as dès le début.
Bon alors, ouais, vu le prix là, les 50€, tu le conseilles à qui ? Est-ce que tu le conseilles tout court, à ce prix-là ?
Bon, franchement, ceux qui ont joué à l'époque et qui avaient pris du plaisir, vous pouvez y aller, etc. Bon, il y en a qui gueulent parce qu'il n'est pas assez hardcore, entre guillemets, qu'il y a eu de la simplification. Moi, je trouve que franchement, c'est fluide et c'est agréable et on retrouve un peu le...
En fait, mon frère les a presque tous faits. Et donc je lui ai montré le week-end dernier et il se rappelait pas qu'il y ait réellement de différence, en fait. Il trouvait justement que les simplifications étaient plutôt justifiées.
Oui. Le seul truc que je regrette un chouïa, c'est que lorsqu'on tue un extraterrestre ou qu'on le capture, etc., c'est bête, hein, mais visuellement, on se rend pas compte qu'on attrape son fusil ou on découvre un nouveau module sur le... Je trouve que ça, c'était mieux fait dans les anciens. Bizarrement, tu sais, c'est un peu le loot, quelque part. L'appât du loot. Et ça, je trouve ça un peu dommage, c'est pas assez mis en évidence. Il aurait suffi juste. Vous avez découvert un nouveau type de pistolet que vous avez capturé, et là, il vous montre. Ça aurait suffi.
Il le fait quand tu fais des recherches.
Oui, voilà. Mais c'est plus tard, voilà. Okay. Mais sinon, je conseille donc à eux, ils peuvent y aller sans aucun souci. Et sinon, attendez qu'ils descendent un petit peu et puis découvrez un nouveau style de jeu.
Il y a déjà eu des promos dessus.
Oui, de toute façon, il y a des jeux.
Ils tombent souvent dans les mises en avant sur Steam, donc il va revenir.
Il y a un DLC qui a l'air pas trop mal. Peut-être que je me l'offrirai un de ces quatre. Voilà, on verra.
Ok, grand merci Damien pour cette séquence donc sur XCOM que vous avez chopé dans le pack BioShock, qu'on vient donc d'aborder. Dernière petite séquence. Games après ce petit jingle, je ne vous dis rien, c'est une production de Seb. Alors Seb, tu vas nous parler du joueur du grenier, pas forcément bien. Dis-nous tout.
Joueur du grenier, je crois que tout le monde le connaît, hein. C'est le mec qui fait des vidéos humoristiques sur des vieux jeux, qui parfois traite des jeux. C'est pas toujours très justifié, mais bon voilà, ça fait rigoler, donc voilà, c'est du second degré, on l'accepte complètement. Et puis dernièrement, il a fait une chronique sur jeuxvideo.com qui s'appelle LFG, qui est une chronique soi-disant de gens qui reviennent sur les MMO 6 mois après pour donner un réel avis sur le MMO, qui ont joué comme des gros malades, etc. Et cette chronique est...
L'idée n'est pas mauvaise de base.
L'idée est même plutôt bonne.
C'est-à-dire que c'est un MMO, tu vois, 2 jours après la sortie, c'est peut-être un peu hardcore.
Voilà. Maintenant, le problème, c'est que l'échantillon qu'on a eu de cette chronique qui durait 10 minutes était une véritable catastrophe, tant au niveau de la façon dont elle était structurée, tant au niveau des termes, que surtout au niveau de son contenu et du fait qu'elle était absolument pas objective. J'ai mis 9 sur 10 à Guild Wars 2 dans mon test. Donc moi, c'est un jeu que j'apprécie. Mais je trouve qu'après, quand on va poster des chroniques sur un site comme jeuxvideo.com, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'on a une réelle influence sur le marché. Et donc là, moi, j'ai vu ça et j'avoue que j'ai trouvé ça très très limite. D'ailleurs, j'ai mis quelques messages assez gratinés de notre part sur son forum et je crois qu'il a dû les lire parce que un jour après, il s'est excusé en disant que sa vidéo, elle était peut-être pas terrible et qu'il y avait peut-être des problèmes et des choses comme ça et qu'il disait que sincèrement, il n'aimait pas Guild Wars 2, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, il y a des choses dans Guild Wars 2 qui me sortent partout les trous aussi, mais c'est pas pour ça que je vais aller raconter n'importe quoi. Mm-hmm. Et c'est pas pour ça que je vais aller argumenter n'importe quoi, enfin non, non argumenter, c'est surtout ça. Et je trouve pas ça du tout professionnel de sa part. Maintenant, certains qui me connaissent savent que je ne l'ai pas en très haute estime au niveau de ses qualités de joueur ou de connaisseur du jeu vidéo. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un humoriste, mais pas du tout quelqu'un qui. Pas un journaliste ni quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et je pense qu'à des fois, il faut mieux fermer sa gueule que de dire des conneries. Et là, il aurait mieux fait de s'abstenir.
Eh bien, ça s'est dit en tout cas. Voilà. Mais est-ce qu'il n'a pas abordé tout de suite, Damien, je te passe la parole, mais est-ce qu'il n'a pas abordé la chose justement de ce côté-là en disant je vais dire c'est de la merde parce que c'est de la merde et je vais faire mon sketch là-dessus.
Ça m'aurait pas dérangé s'il l'avait pas présenté comme nous on est des pro-gamers, on a joué au jeu 6 mois.
Ouais, là, il a joué vraiment sérieux.
D'accord.
S'il avait joué second degré, j'aurais dit il troll et c'est drôle et puis voilà, c'est comme ce site là, il y a un autre site dans lequel ils mettent des 1 sur 20 à des gros jeux et c'est super lourd, mais voilà, c'est du second degré. Là, le problème c'est que c'est du premier degré et c'était du premier degré désinformatif.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on va commencer à parler de certaines choses sur un jeu, on se renseigne, on ne sort pas n'importe quoi. Parce que les gens prennent ça aussi au premier degré. Et sur un site comme jeuxvideo.com qui a plus d'un million de vues par jour, on ne sort pas ça. Parce que non seulement c'est politiquement incorrect, je trouve, de la part de l'entreprise et des gens qui ont travaillé dessus, mais en plus de la part des journalistes de jeuxvideo.com qui sont certes pas les meilleurs journalistes du web, qui sont peut-être achetés ou que sais-je, j'en sais rien, mais ils évitent quand même de faire ce genre de couillonnade. Et là, ça ressemblait tellement à un troll d'un blaireau sur Internet que je trouvais ça inadmissible. Parce qu'à la rigueur, il aurait tapé ça sur son site, tout le monde s'en serait foutu, mais là, sur jeuxvideo.com, ça se fait pas.
Eh bien voilà, Damien, un avis ?
Oui, une petite réaction, parce que je l'ai vu aussi cette émission. Je pense que le plus gros problème, en fait, c'est que, comme tu disais, c'est un humoriste. Je crois qu'il a voulu garder un peu son ton humoristique, râleur, machin, etc., dans cette émission. Et le problème, c'est que ça colle absolument pas.
C'est pas drôle. À part le début, c'est pas drôle.
Oui, le début, pourquoi pas, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a un espèce de mélange des genres. C'est comme le petit journal, c'est exactement le même problème, où il y a un mélange entre journaliste et humour. À la fin, tu sais plus quelle est la partie humour, la partie journaliste.
Ça devient de la désinformation.
Et ça devient de la désinformation et presque de la diffamation au final, parce que quelqu'un peut se dire, mais j'ai pas du tout dit ça. Oui, mais on faisait de l'humour, mais vous vous présentez comme journaliste, alors c'est quoi, ça veut dire quoi en fait au final?
Je suis parfaitement d'accord.
Voilà.
Bien,
en plus qu'il joue, il a son image, c'est quand même quelqu'un de connu. Et c'est un peu comme un acteur, quand on l'a trop vu dans un rôle, dans une série.
Bah, il cherche clairement à se réinventer. Hein, quand on voit le papy grenier qu'il a lancé sur le côté.
Cette année-ci, ça a été un peu pour beaucoup de chroniqueurs. Une année, on va faire des choses, on va changer. Il y en a certains qui savent plus ou moins se plier à ce genre de jeu. Parce qu'ils ont une écriture derrière qui peut quand même. Qui peut changer ou s'adapter, d'autres qui produisent avant de savoir, pour voir ce que ça va donner. Et c'est, ouais. C'était le cas avec cette émission.
Ouais, en même temps, dans Plus ou moins Geek, l'émission dans laquelle auquel il participe, bon, après, on peut être OK avec sa chronique ou pas, mais là, à ce moment-là, il est tout à fait sérieux. Il ne joue pas le joueur du grenier.
Ouais, mais il montre. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui au final, parle beaucoup de jeux d'une façon humoristique, etc. Mais quand moi, j'ai regardé une quinzaine de Plus ou moins Geek, et moi, petit à petit, je me rends compte que c'est un mec qui connaît pas grand chose, quoi. Chaque fois qu'il va citer un truc, il va citer un truc que tout le monde connaît. Enfin, voilà. Après, ça, c'est mon avis perso.
Mais oui, oui.
Moi, il me fait rire, hein, c'est pas le problème. Et je l'aime bien, hein, je trouve qu'il a l'air sympa.
Moi, j'aime bien le jour du grenier. Le jour du grenier, j'aime bien, ça me fait bien rire.
Ouais, mais même un papy grenier, je trouve ça passe. Enfin, voilà. Il y a juste que là, il est avec un gars, on sait même pas qui c'est. Enfin, peut-être qu'il est connu, j'en sais rien. Mais
c'est peut-être vraiment... juste un copain, je veux dire, peu importe.
Je trouve juste que se présenter comme des pro-gamers, des gens qui ont joué au jeu et sortir ça, ça se fait pas. C'est pas pro, c'est juste naze. C'est juste digne d'un kikou sur une pause paf YouTube qui sort ses conneries et puis voilà. Sauf que lui, il a la notoriété et que quand t'as la notoriété, bah, tu fais gaffe à ce que tu racontes.
Ouais, clairement. Bon voilà, mis à part toute compétence, qu'il en ait ou qu'il en ait pas, peu importe pour lui, en tout cas, c'est que là, il a clairement du talent. Maintenant, personne n'est à l'abri d'un faux pas comme celui qu'il a fait, donc voilà, en plus, il s'est excusé. Donc, on verra la suite. En tout cas, le concept n'est pas mauvais en soi de revenir sur des MMORPG, mais bien après leur sortie. Merci Seb pour ce petit coup de gueule, eh bien on ira voir. Je sais pas si vous allez partager la vidéo ou pas, par principe, mais en tout cas, vous savez où la trouver, il suffit de surfer sur jeuxvideo.com. Bon, comme la musique adoucit un petit peu les mœurs, je vous propose de passer tout de suite à ce qu'on écoute actuellement. On parle donc musique avec Sylph et on commence avec Woodkid, que je ne connais pas.
Ah ben, écoute...
Tu vas m'apprendre quelque chose.
Alors je vais déjà t'apprendre un truc qui va faire flipper, c'est que Woodkid, c'est un pote de Lana Del Rey.
Ah!
Ouais, il a fait un de ses clips,
c'est déjà fini.
Moi, j'aime bien Lana Del Rey, voilà. Même si elle est nulle en concert, j'aime bien ce qu'elle fait. Et donc, je me suis pas trop renseigné sur le bonhomme. Je voulais juste faire un petit encart sur le côté pour dire qu'il sortait son dernier album qui s'appelle Golden Age et qu'il l'a sorti, je crois, le 15 mars. Un truc dans le genre. Je l'ai écouté, c'est sympa. Voilà, si vous avez l'occasion, c'est du Woodkid. C'est un petit peu comme Iron, le premier album qui n'est pas vraiment un album parce qu'il y avait 6 morceaux dessus et donc 4 mix. Mais
c'est proche donc de ce que fait Lana Del Rey en termes musicales ou pas ?
Non, en fait, moi c'est marrant, c'est un gars que j'ai connu en fait sur la bande annonce de Assassin's Creed Révélation.
Ouais.
Et qui était magnifique. Et d'ailleurs qui avait ému beaucoup de gens, je crois, parce qu'elle était vraiment extrêmement bien faite. Et voilà. Mais je crois que... Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est un Français. Je crois que c'est un Lyonnais.
C'est un Français.
C'est un Lyonnais. Oui. Et alors, la principale caractéristique de sa musique, c'est qu'en fait, c'est des concerts instrumentaux, limite musique classique. Hein, on peut limite dire ça.
Ouais. Il est venu en concert en Belgique avec, où il a joué avec le Philharmonique de Mons, je crois, d'ailleurs.
Mm-hmm. Et donc, lui, il chante là-dessus de ça. C'est vraiment sympa, il y a vraiment des chouettes ambiances, etc. Je dirais pas que c'est le meilleur groupe de l'année ou quoi que ce soit, mais franchement, au moins, ça va, c'est pas fait avec une beatbox. Quoi.
Voilà, ça vaut la peine d'être écouté.
Voilà.
Oui, et ses clips sont sympas d'ailleurs, c'est lui qui les réalise, et il a réalisé le clip de Lana Del Rey notamment, etc. Et c'est comme
il
ça qu'il s'est fait connaître.
À la base.
Ah, oui, okay. Voilà. Ouais.
Cool. Après, moi, je trouve que Woodkid, c'est sympa dans un bar, lounge, voilà... Après, ça m'emmerde un petit peu. Je sais pas pourquoi. Je trouve que
de variation, oui, c'est voilà. Toujours la même systématique, mais ça reste.
Mais c'est très propre. Et pour une fois qu'un Frenchie se fait connaître un peu partout dans le monde, c'est pas mal.
Et en même temps qu'il y a des icos, des vrais icos qui jouent avec lui, quoi.
Oui, oui.
Alors Damien, tu voulais également faire un petit encart sur un autre artiste.
Ouais, je voulais parler de Algy, parce qu'il y a un de mes collègues, Laurent, pour pas le nommer. Salut Laurent.
Trop tard.
qui m'a dit, le meilleur album de l'année dernière, c'est l'album d'Algy. Et je connaissais pas Algy, donc je me suis mis à écouter.
Bah écoute, moi non plus, donc on peut peut-être écouter un petit extrait avant de continuer.
On peut faire ça.
À la suite. He may contain, he urged to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.
Sitters in your fevers, greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your hand.
Algi, donc, c'est sympathique, hein.
Ouais, ça c'est le morceau Brise the Block. Que le clip est très chouette, d'ailleurs. Franchement, c'est une histoire racontée à l'envers, qui est bien foutue.
J'ai écouté ça en arrivant au cinquantenaire tout à l'heure.
Tu peux laisser un peu en arrière-plan. Hein. D'ailleurs, ce morceau-là est pour moi un de leurs meilleurs morceaux, parce qu'il commence tout doucement, et puis au fur et à mesure, il t'embarque dans une espèce d'atmosphère très très sympa, avec notamment pas un refrain, parce que justement, il travaille pas comme ça, mais quelques phrases musicales qui reviennent, etc. Et avec ma copine, il y a des moments où vraiment on se retourne et puis on dit « Ouais, t'es en train de chanter ça dans ta tête ?»« Ouais, ouais, t'es en train de chanter ça dans ta tête. » C'est assez entraînant et c'est bien foutu. En fait, il fonctionne de manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des classiques couplets, refrains, etc., ils vont plutôt avoir une base musicale, bah, une ligne musicale, et puis ils vont en prendre une autre, et puis ils vont faire plusieurs... avec 2-3 lignes musicales, ils vont faire un morceau, et donc c'est pas forcément structuré comme un morceau dit classique, quoi. Voilà. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très varié, entre guillemets, hein, parce qu'après je vais parler d'un autre artiste qui est beaucoup plus varié, mais
ouais.
C'est assez varié, c'est assez original, et c'est vrai que ça gagne vraiment à être écouté. Je vous conseille.
Tout est toujours aussi planant comme style ou pas? Il fait du plus péchu.
Il
varie de style également.
Oui, ça varie de style.
Le style varie au cours de morceaux. En fait, c'est très déstructuré. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mm. Musicalement, c'est un peu des structures free jazz comme ça, je trouve, qui vont passer d'un truc très calme à un truc très énergique, etc. C'est vraiment intéressant.
Est-ce qu'on a des comparatifs possibles avec d'autres artistes?
Non, je trouve pas. C'est pas spécialement là. Je suis pas assez pointu au niveau musique pour dire oui, ça rappelle quelque chose.
Beck.
Ouais. Niveau voix, c'est très indé. Ouais.
Alors sa voix est très particulière, ouais.
J'ai l'impression d'avoir un ton de voix, justement, une tonalité assez indé, donc ce qui est indépendant.
C'est une voix très particulière et qui fait en fait le lien entre tous les morceaux. Voilà, je vous conseille de le découvrir. C'était pour certains le meilleur album 2012, donc profitez, si vous êtes passé à côté, profitez-en et écoutez.
Voilà, bien, avant de passer à la suite qui va être un peu plus péchu, je vous propose encore 30 secondes. On se la remet,
ouais,
et puis
allez,
on passe à la suite.
Et après, ça va changer.
Algi, donc, merci Damien pour cette découverte. On passe tout de suite à une petite découverte. Pas découverte pour tout le monde.
Hein, non, mais pas découverte pour tout le monde. Ouais.
On en rigole parce que moi j'ai écouté ce groupe pendant très longtemps. C'est naturellement Stupéflip et on passe tout de suite à ça après un petit jingle ou pas.
Ouais.
T'es prêt?
Allez, on y va.
Ok, on y va. Je fais le break.
Stupéflip, tu peux commencer par un morceau. Je crois qu'après Algi, je crois qu'il faut un peu trancher dans le vif. Voilà un petit morceau qui s'appelle Stupéflip vite. Avec justement, le clip est une parodie d'un clip de Woodkid. Donc,
du clip Iron.
Écoutons.
Bon, alors dis-nous tout sur Stupéflip.
Stupéflip. Ben voilà.
Je voulais poser une question. Ouais. Est-ce que c'est une référence à Harry Potter, leur nom?
Non, c'est pas par rapport à Harry Potter du tout. Quoique, peut-être, ils en sont bien capables, peut-être. Non. Voilà, Stupéflip, c'est un groupe français qui a été formé en 2000. Et qui en fait mélange plusieurs styles musicaux principalement du hip-hop rap quand même, d'ailleurs c'est ce qu'on entend là, et bon, du rap un peu qui tâche, on peut dire du rap qui vient du punk en fait, mm-hmm. et du hip-hop qui vient du punk un peu de la même façon que, voilà, les Beastie Boys ouais, venaient du punk, etc. Donc on est dans cette espèce de logique qu'a suivi certains dans le mm-hmm. niveau courant musical.
Ceci, le flux vocal est très rap, c'est vrai que la musique est aussi parfois assez rock, voire punk. Hein. Vraiment, là, on écoute un style particulier, mais il y a d'autres morceaux qui sont assez trash.
Ah, voilà, tout à fait. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un sample classique aussi derrière, parce que, bon, je vais revenir à la base, mais j'ai un trou de mémoire. King Ju, donc, qui est derrière le principal, qui est derrière la musique, se référence notamment d'IAM en parlant justement des samples classiques que pouvait faire IAM. Donc là, effectivement, c'est un peu aussi une référence par rapport à ça. Donc effectivement, Superflip, il est composé de, on va dire, trois personnes de base, King Ju, Cadillac et MC Salo. Bon, chacun a des pseudos.
Ils ont des excellents.
J'ai vu que c'était MC Solar, mais c'est
sympa ça. MC Salo. Chacun a d'autres pseudos. J'en reparlerai d'ailleurs notamment d'un pop-up pour King Ju. Mais en gros, c'est King Ju qui tient l'image en fait de Stupeflip. C'est lui qui dessine, c'est lui qui.
C'est lui qui a un sac poubelle sur la tête.
C'est pas un sac poubelle, c'est une sorte de cagoule ou de bonnet dans lequel il a creusé des trous en fait, voilà, et puis qui s'arrête au nez. Parce que pour pas qu'on puisse le voir et pour pas l'identifier lui, mais
il serait une véritable identité parallèle parce qu'il s'appelle le Stupeflip Crew, finalement l'équipe Stupeflip, alors qu'il se double en personnalité Poppip et d'autres.
Voilà, exactement. En fait, après il y a toute cette histoire de Stupeflip religion, etc. Là, je vous conseille d'aller sur le net, déjà de les écouter et vous. En fait, ils expliquent tout dans la musique, en fait. Pas seulement dans la musique, mais dans les petits extraits écrits et joués entre les morceaux, etc. Ouais,
c'est des malades, ils sont vraiment inventés un univers parallèle, une religion.
Voilà, etc. C'est très riche. Ça me fait penser, moi, au Ludwig, qui était aussi un groupe punk rigolo des années 80-90. Punk rigolo, voilà. Ah bah, si vous connaissez pas les Ludwig en 88, c'est vraiment ça. Où eux aussi mettaient énormément de passages.
C'est humoristique.
Alors, oui et non, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils créent comme tout un univers. L'idée, c'est... Ils se prennent pas non plus au sérieux. C'est pas... Stupreligion, machin, etc. Mais c'est pas des gourous qui vont faire, etc. L'idée, c'est...
C'est particulière, hein. Par exemple, il y avait un extrait d'une chanson, je sais plus quoi, c'était le maître avec son gourou, je sais pas si tu l'as entendu. Il disait, maître, pourquoi le stup, la religion du stup, etc. Et donc il dit, ne te demande pas pourquoi la religion ou qu'est-ce le machin. Et donc il a une énormité à côté du truc, comme on aurait pu l'entendre en effet de vrais gourous finalement. Mais c'était tellement gros que c'était à chier, mais c'était marrant, quoi.
Est-ce que c'est pas un décalage par rapport à Wu-Tang?
Peut-être.
Maybe.
Moi, je voulais juste savoir par rapport à eux, est-ce qu'ils n'ont pas créé une identité un peu à l'IAM? Tu parlais un peu d'IAM tantôt. Mm-hmm. Par exemple, IAM, ils avaient créé avec l'école du micro d'argent un concept avec les chevaliers, etc., etc., qui était un peu un monde assez parallèle. Est-ce que eux, c'est un peu le même genre de démarche ou bien c'est plus on s'amuse et c'est humoristique?
Clairement, dans un de ses interviews, il dit que c'est le micro d'argent qui préfère d'IAM de loin. Mm-hmm. Je pense que. Ils sont tapés un délire, il faut bien voir.
C'est
un gros délire, avec tout un univers, avec plein de choses qui sont très très drôles, parce qu'effectivement, très drôles, et il y a des moments, il y a des choses très vraies qui percent au milieu de tout ça. Mm-hmm. C'est un vrai monde, tu rentres dedans, t'apprécies ou pas, mais voilà, c'est vraiment... Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour éviter d'être trop... parce que d'un côté, ça peut être très très noir. Hein,
ouais.
Skin Ju peut être...
Et très violent aussi.
Très violent, très noir.
Dans les mots.
Maintenant, oui, mais en même temps, il y a toujours un côté décalé qui désamorce le truc. Hein. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est typique de rap, etc. Mais en même temps, c'est tellement massif et tellement hurlé, etc., que ça en devient décalé obligatoirement. Justement, ça joue là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il va se créer aussi un autre personnage qui s'appelle Popip.
C'est la victime, lui.
Qui est la version rigolote de ce qui.
C'est du style, je m'en fais flasher, mais c'est le mec qui débarque, qui fait salut les copains, j'ai écouté, j'ai créé une nouvelle chanson. Non, Popip, on veut pas écouter ta merde, on lâche les chiens, tu vois. Donc le mec, il fait je vais écouter. Et donc ça part vraiment de conneries.
Voilà,
donc c'est ridicule, quoi. C'est ridicule.
C'est humoristique, hein, faut bien voir. Donc il y a des moments où il peut être très réaliste et parler de choses qu'il touche, etc. Parce que c'est autobiographique pour certains trucs, notamment dans un des derniers morceaux, il parle qu'il s'est retrouvé au RMI et qu'il a dû justifier le fait qu'il touche le RMI, et puis il a dit on lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que vous avez fait, j'ai fait Stupéflip. Quoi, c'est vous qui avez fait Stupéflip? Il a eu de la chance qu'il y ait quelqu'un qui connaisse le groupe dans le...
Ah ouais.
Et comment Stupéflip peut être au RMI, c'est pas normal, quoi, tu vois. Donc c'est ça aussi, donc il va quand même parler comme dans le rap de choses bien, bien réalistes, mais en même temps il va pas se prendre au sérieux, il va aller sur certains trucs, il va gueuler contre même ses propres spectateurs en concert, etc. Bon voilà, ça fait partie du jeu, et je crois que voilà, c'est ça qui est sympa. À propos de Popip, parce que bon, évidemment ça fait partie de Stupéflip, mais derrière, avec le personnage de Popip, il est allé faire d'autres trucs à droite à gauche. Notamment, il a fait un morceau avec plusieurs morceaux, mais notamment un qu'on va passer là, avec Simone et les Bonnes. Alors, je sais pas si vous connaissez.
Simone et les Bonnes, c'est poétique.
Ah bah oui, elle est du quartier. Et notamment sur un morceau qui s'appelait Je suis trop bonne pour toi, je crois, un truc genre là. Ouais. Allez, vas-y, fais péter, Sergio.
On se l'écoute,
vous verrez, l'ambiance est bien différente.
Vraiment dans le délire, dans tous les sens, quoi. Mais voilà. C'est le propre de Popip, quoi. Il fait une chanson de merde en disant, regardez.
Mais c'est pas une chanson
de la merde. Et puis,
attention, c'est pas forcément une chanson de merde. Alors non, mais oui, mais c'est ça qui est rigolo. C'est par exemple, il va dire, moi j'adore les claviers sur Mylène Farmer, par exemple. Il va aller chercher ses références à droite à gauche. Et là, on est typiquement
Est-ce
sur
que
certains
tu crois
claviers.
Que c'est une référence, les claviers sur Mylène Farmer.
Ah bah pour lui, oui. Après, c'est à lui de voir, etc. Moi, je suis pas assez pointu, etc. Mais typiquement. Là, on sent l'influence derrière, et vous voyez que c'est complètement différent du morceau que je vous ai fait écouter avant. Et il y a plein de choses. D'ailleurs, tu peux passer sur un autre morceau qui s'appelle Cold World, où là, on est quasi dans la new wave allemande années 80, remis un peu au goût du jour quand même. Mais donc voilà.
La new wave.
On est clairement dans un autre registre. Hein.
On est totalement dans un autre registre. En tout cas, je vous conseille d'aller voir un peu Stupéflip, d'aller écouter ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça varié. Ça m'a fait plaisir ces derniers temps d'écouter ça. Dernièrement, il a sorti un nouveau LP en septembre dernier avec un DVD pour 13 euros. Il y a plein d'images, plein de trucs de concert, etc. Plus le LP qui fait 6 titres, je crois, un truc dans ce genre-là. Achetez-les aussi, parce que mine de rien, il faut bien vivre, et donc
surtout pour des petits artistes comme ça,
voilà,
avec la crise et tout,
voilà, ils ont maintenant, avant ils avaient été signés par BMG, puis ça s'est mal terminé, donc maintenant ils sont tout seuls, et voilà. Allez les voir en concert aussi, parce qu'à une époque c'était pas forcément ça, mais là il l'a vraiment pris comme un vrai boulot, il a vraiment construit de manière différente, il essaye de faire autre chose que font les autres groupes. Franchement, allez découvrir Stupéflip. Vous aimerez pas, ça laisse pas indifférent, mais au moins vous aurez découvert quelque chose, quoi. Voilà, un autre univers.
Un grand merci Damien, donc c'était donc une chronique sur Stupéflip, et donc je t'avoue que moi je m'attendais pas à que tu aimes, parce que nous on écoutait ça étant adolescent il y a quelques années, et finalement on avait le côté déconne, le côté un petit peu trash, rock c'est vrai, mélangé avec du hip-hop, et puis ce qu'il racontait, mais ce qui était assez trashouille, bah, c'est vrai que je ne savais pas que ça cachait autant derrière.
Oui. D'ailleurs, sur le site j'ai posté un petit court-métrage qui s'appelle Feast of Jesus.
Oui,
un court métrage espagnol.
Et en dessous, il y a une surprise.
Et en dessous, il y a une surprise. Voilà. N'hésitez pas à aller au bout du
scroll article.
Scroller.
Super. Bon, après avoir parlé jeux vidéo et musique, on va parler série avec Luc tout de suite. Et donc, on est toujours sur notre première page, n'est-ce pas? Et on va parler de Black Mirror, une série britannique bien étrange, Luc.
Oui, série débutée il y a 2 ans, fin 2011, série britannique, donc, qui a été créée par Charlie Brooker, qui travaille notamment assez bien avec quelqu'un d'autre que d'assez connu dans la comédie britannique, qui est... Eh bien, je ne sais plus son nom, enfin, c'est quelqu'un de très connu. Brass Eye, notamment, qui a fait les IT Crowd, il a travaillé avec eux aussi. Enfin bon, c'est quand même quelqu'un qui a un humour bien sarcastique à l'anglaise, hein, un humour bien noir. Et ici, contrairement à ça, on part dans quelque chose de bien sérieux, qui est quand même une espèce de peinture de ce que pourrait devenir la société qui est... D'ici peu, d'ici une dizaine d'années maximum, ce genre de choses qu'on voit là-dedans, ça pourrait arriver peut-être un peu plus pour certains épisodes, peut-être déjà maintenant pour certains autres, et ça c'est ça qui fait très peur. C'est-à-dire que ça parle beaucoup de la manière dont on utilise les médias, notre rapport aux médias aussi. Le premier épisode, enfin, pour repartir depuis le début, il y a pas beaucoup d'épisodes, ce sont des formats courts, donc il y a 2 saisons, chaque saison fait 3 épisodes. Moi, je vous conseille de passer le cap du premier. Parce que le premier là, est vraiment très, très, très différent des autres. Le premier est sur un sujet beaucoup plus actuel. Ça pourrait se passer maintenant sans problème. Une histoire d'un homme politique qu'on fait chanter et qu'on oblige à se détruire médiatiquement pour sauver une fille qui... Enfin, quelqu'un d'important publiquement aux yeux des Anglais. Et il ne peut pas dire non. Parce que c'est trop important, sa carrière, l'image que ça va donner, la vie éventuellement de la fille qui est retenue prisonnière. Il peut pas faire marche arrière et il doit vraiment se ridiculiser. Je vais pas dire pourquoi parce que tout l'épisode tient là-dessus. Mais là, on est vraiment très loin des autres épisodes qui, eux, se situent plus dans une espèce de futur proche, notamment avec le deuxième qui s'appelle, je crois, 15 million merits, qui est donc une espèce de société qui fait peur, parce que ça pourrait être une société qui oblige les gens à consommer pour consommer. Ah. Donc, on les oblige, on les réduit presque en esclavage pour leur faire avoir des crédits virtuels. Alors, ça me fait quand même très peur, surtout que depuis pas longtemps, on parle du fameux Bitcoin. Et on en arrive là, hein, on y est déjà, et les gens, en gros, pédalent sur des vélos pour gagner des crédits, parce qu'ils produisent de l'énergie comme ça. Pour les riches, qui eux consomment sans se poser de questions. Donc on est dans du Metropolis aussi. Hein. Ouais. Il y a des références, attention, ils n'ont pas non plus pondu ça n'importe comment. Aujourd'hui, je fais dans les gens qui ne pondent pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est beau. Et donc, très très bon épisode sur un mélange qui part après dans les menaces de la télé-réalité, notamment avec tout ce qui est genre Nouvelle Star, des choses comme ça. Troisième épisode de la première saison qui est The Entire History of You, qui là parle plus d'une avancée technologique qui permettrait d'enregistrer dans un format plus ou moins d'une graine ou d'un tout petit médicament comme ça qui se glisse, qui se greffe sous l'oreille et qui permet d'enregistrer et d'avoir accès aux enregistrements de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on dit, enfin tout ce qu'on vit peut être enregistré pendant toute la durée de la vie et tout est accessible avec une toute petite télécommande. Et alors on est dans le social media, donc ça veut dire qu'on partage ça avec les autres. On fait par exemple un podcast ce soir, j'ai envie de remontrer ce qui s'est passé à quelqu'un ou de partager ça sur Twitter, j'envoie l'extrait que j'ai envie de montrer, je peux le revisionner directement moi-même ou le projeter sur un téléviseur de quelqu'un ou mon ordinateur, peu importe. Toutes les dérives que ça peut amener sont évidemment envisageables et arrivent très vite. Et
Google Glass, tu nous tiens ?
Oui, sauf que là, c'est encore pire parce qu'on touche directement aux gens, parce que c'est pas quelque chose que tu mets, c'est pas quelque chose que tu choisis de mettre ou d'enlever. Ici, tu peux pas l'enlever. Une fois que tu l'as, tu l'as. Et toute la suite de l'épisode tient là-dessus. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à des choses que tu ne serais pas forcément censé pouvoir, dont tu ne pourras pas te souvenir, que les autres ne pourraient pas voir, mais on te demande de prouver quelque chose pour passer, par exemple, un contrôle douanier. On te dit, montrez-moi les 24 heures que vous avez vécues, les 24 dernières heures, par exemple, pour prouver que vous n'avez pas essayé d'effacer quelque chose ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des très bonnes idées parce qu'ils appliquent ça aussi à des choses qui pourraient être vécues au jour le jour. Des applications auxquelles on ne pense pas toujours quand on parle de nouvelles technologies. Très très bon épisode aussi, qui clôture la première saison, qui recommence depuis cette année, je pense, avec un épisode qui s'appelait Be Right Back, qui est aussi très bon. Et qui... Enfin, je vais pas tous les décrire, parce que sinon... Non. Allez-y, les yeux fermés. On n'a pas beaucoup entendu parler de cette série, parce que c'est quelque chose qui n'est pas diffusé chez nous. Comme beaucoup de bonnes choses, ça n'arrive pas jusque sur nos écrans. Donc, vous pouvez le commander, vous pouvez vous le procurer en import, comme vous pouvez l'imaginer sur plein d'autres médias auxquels je ne pense pas pour l'instant. Moi, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Ça change des séries qu'on voit habituellement et ça montre un peu aussi la qualité d'écriture des séries britanniques, qui sont vraiment un cran au-dessus de ce qu'on voit dans ce qu'on nous sert à la louche avec l'industrie américaine, qui a des très bonnes choses aussi. Mais bon, ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus proche de nous et on le sent. Ça nous touche beaucoup plus en tant qu'Européens, par exemple, de la manière dont c'est traité, quoi.
C'est marrant, on parlait justement de Doctor Who en venant ici en voiture avec Damien.
Ouais, Doctor Who. Peut-être qu'un de ces quatre, on en fera un petit truc lors d'une nouvelle saison.
Ouais, une chronique, ça vaut la peine, hein, l'animal.
Le dernier épisode de la deuxième saison qui s'appelle The Waldo Moment. Et en fait, celui-là est vraiment excellent parce que celui-là touche la politique et la création. C'est un sujet qui a déjà été abordé, mais la création d'un personnage virtuel qui pourrait avoir une implication politique ou une vie politique. Tellement il est médiatisé, il peut devenir finalement quelqu'un de tangible au niveau politique et au niveau influence des choix des gens.
Tu parles du joueur du grenier, là ?
Absolument. Non, absolument. Qui ne veut voter grenier ?
Voter grenier. Quelqu'un d'autre a vu autour de la table Black Mirror ?
Moi, j'en ai entendu parler, mais je les ai pas vus. Mais tu me donnes bien envie.
Mais tu vas les voir.
Ouais. J'ai vu les trois premiers épisodes, en fait. Et j'avoue que j'étais un peu sceptique.
Mais moi, franchement, le premier m'a... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi ? Mais pourquoi est-ce qu'on m'ont fait un foin autour de ce machin, quoi ?
Ouais.
Et puis j'ai passé le deuxième, et là, j'avoue que j'ai accroché surtout le moment où la fille chante. C'est une reprise d'une chanson des années 20, des années 30, je crois, qui est une super bombe. Enfin, elle est absolument pas chanteuse, faut le savoir. Et malgré mes recherches, je pense pas qu'elle soit chanteuse. J'ai rien trouvé sur elle, donc elle chante super bien cette reprise, absolument à écouter et à voir parce qu'en plus elle est jolie.
Black Mirror, donc, une chouette série britannique à découvrir. Ça se trouve parmi chez nous facilement ou tu conseilles le téléchargement?
Ça n'a pas été diffusé.
D'accord. À mon avis, ça doit se commander uniquement via un store en ligne, je pense.
Okay, en tout cas, à découvrir à gauche ou à droite sur Internet.
Malheureusement, les séries britanniques n'ont pas toute l'exposition qu'elles devraient.
Ce qui est d'ailleurs bizarre.
C'est étonnant. Ouais.
Parce qu'il y a Sherlock, par exemple.
Ah oui, Sherlock. Oui,
Sherlock est heureusement passé.
On trouvait les DVD, je les ai trouvés en DVD Blu-ray, mais c'est vrai que c'était pas non plus.
En Belgique, ils sont passés sur la 2, je crois, et en France sur France 4. Mais c'est clair que c'est une super série, mais il y en a plein. IT Crowd, dont tu parlais tout à l'heure.
Mm-hmm. Ça, c'est introuvable.
C'est introuvable.
Chris Morris, voilà. Le co-monsieur.
Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la série dont tu parlais. Donc, en fait, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai trouvé certains sujets qu'on avait déjà vus très curieusement dans la très vieille série La Quatrième Dimension. Donc je suis un immense fan et j'ai trouvé que ça c'était un peu dans ce style-là. Par moments, j'ai trouvé ça un peu trop démonstratif. Mais bon, après, j'ai pas tout vu, donc je vais pas émettre d'avis. Ça, j'ai trouvé ça parfois un peu premier degré, en fait.
Oui, mais je pense que ça se veut.
Peut-être que... Comme j'ai pas tout vu, je crois que c'est... Parce que le premier épisode m'a pas déplu, moi, par contre. J'ai trouvé ça intéressant.
Il m'a pas déplu, il m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment.
C'est vrai que c'est une série qui surprend beaucoup hein, parce que c'est jamais le même thème. Est-ce que c'est toujours le même réalisateur ?
Non, tout change. On a jamais, il y a aucun personnage ne suit deux épisodes, le réalisateur est différent. C'est écrit par contre en grande partie par le même.
Ok. Ça me fait penser quand tant qu'on parle de séries internationales.
Allô ? C'est moi.
Ça me fait penser à.
Allô quoi ?
Ah non, s'il vous plaît.
Non.
Vous avez
attention, dit qu'on il faut payer. Débiles,
c'est déposé, c'est déposé.
Allô, on ne paiera pas.
Je vous avais dit qu'on allait parler de débiles. Non, je voulais juste faire une parenthèse sur Rilumen, qui est une série, je crois, suédoise, norvégienne, ou je sais pas quoi.
C'est nordique.
Qui est un peu pas le même genre de thème, mais qui aborde aussi les choses un peu de la même façon, c'est-à-dire quelle serait l'implication de certaines technologies dans notre quotidien.
Et donc, c'est marrant parce que, de manière générale, c'est la question que pose la bonne SF, en tout cas toute une école de la SF. Akadic et autres.
Akadic et autres, ouais. Je pense que c'est vraiment... Enfin, en tout cas, Black Mirror est assez étonnant. Rien que pour le fait qu'elle soit étonnante.
Ouais, si. Pour vous connaître quelque chose de différent, ça vaut le coup. Juste pour la curiosité aussi.
Black Mirror, donc, série britannique, on l'a dit, pas forcément trouvable en boutique chez nous, mais en tout cas, allez fouiller sur le net, ça vaut le coup d'œil. Un grand merci Luc, on passe tout de suite, donc après la musique, les séries, les jeux vidéo, eh bien on revient de la musique avec Darby, et Darby qui va nous parler de d'hologrammes. Ah, sujet un peu plus glic, n'est-ce pas ?
Bien sûr, bien sûr.
Entre glee et geek, t'as vu ? C'est mauvais, hein ?
Waouh !
Non, le pitch, c'est justement, est-ce qu'on va pouvoir revoir des grandes célébrités, des grandes stars de la musique sur scène dans les années à venir ?
Tout à fait. Donc, un concert live de Elvis Presley, de Michael Jackson ou encore de Claude François en 2014 ou bien voir en 2017-2018, est-ce encore possible ? Un peu oui ou non, on ne sait pas. Donc en tout cas, il y a une technologie qui est en train de faire un buzz, c'est l'hologramme. Hein, depuis l'apparition de Monsieur Tupac Shakur, disparu en 1996 quand même, et qui réapparaît en 2012 pour le festival Coachella qui se déroule aux États-Unis, aux côtés de Snoop Dogg, de Dr. Dre.
C'est un peu le buzz. Ça a fait
énormément le buzz parce que c'est du jamais vu. On ressuscite un mort. Bon, c'était déjà vu au Japon en 2010, mais là, ça a vraiment fait un buzz mondial parce que Tupac, il avait quand même un public et que beaucoup de gens ont été touchés. Ils se sont dit, c'est pas possible qu'on peut faire revenir des morts pour un concert. Alors, est-ce possible au niveau du business, hein, est-ce possible de faire revenir Elvis Presley pour tout un concert
bien précisé.
En tout cas, c'est le pari que c'est lancé par exemple AV Concept qui était derrière le travail de Tupac. Quand même, ça a pris quand même 4 mois de préparation avec un budget. Si vous avez un budget assez florissant entre 100 000 et 400 000 $ pour réaliser quand même 5 minutes de prestation, donc si vous avez envie de faire revenir Claude François pour votre anniversaire en 2014, c'est mort, faut oublier, ou bien faut beaucoup travailler.
Non, pas Claude François, non.
Il est encore là.
En tout cas, pour AV Concept, c'est carrément un buzz parce que leur chiffre d'affaires était en baisse depuis ce 15 avril 2012, ce dimanche 15 avril 2012, où à la bourse, sa cote a largement augmenté et tout le monde mise dessus. Et d'ailleurs, Dr. Dre a laissé entendre que peut-être que dans l'avenir, il y aurait une tournée de Tupac. Tupac qui revient avec Wiz Khalifa.
Ah, c'est dingue, ça. C'est comme pour ce groupe britannique ou anglais. Anglais ou américain, je sais pas comment il s'appelait, très connu. Les Gorillaz.
Gorillaz.
Ils faisaient des concerts avec des écrans. Finalement, on allait voir des écrans avec des bonhommes qui jouaient de la musique sur des écrans. Mm-hmm. On s'est dit, mais est-ce qu'on paye le même prix? Si on paye moins cher, je suis d'accord.
Bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects.
J'irais pas douiller 60 ou 120 euros.
C'est vrai, il y a plusieurs aspects. Par exemple, les Black Eyed Peas avaient fait ça lors du Energy Music Awards, mais c'était avec un écran. Donc, c'était ce jeu d'interactivité entre des personnes qui sont là et qui sont pas là. Mais là, c'est carrément une révolution parce que la personne est décédée. Donc elle est décédée il y a plus de 10 ans et moins de 10 ans en tout cas.
Elle est tombée dans le domaine public.
On le remet au plat du jour, on le ressuscite, qu'on ressuscite un mort.
Mais c'est ça, ouf, c'est ça, vraiment... justement, genre Kurt Cobain qui s'est suicidé pour arrêter de faire des musiques pour plus être sur le devant de la scène. Les mecs ils vont venir le ressortir en hologramme. Voilà. Le mec, tu dois se retourner 4 fois dans sa tombe. Mais
c'est un petit Sergio, tu nous tends une perche parce que au niveau du respect de l'artiste en elle-même, est-ce que c'est bien vu de par exemple faire revenir Kurt Cobain, lui qui a décidé de mettre fin à sa vie. Il a, à mon avis, il était plus trop chaud pour faire des scénettes. Est-ce que c'est au goût du jour de le faire revenir sur une scène? Par exemple, les familles, lors du retour, entre guillemets, de Tupac, il y en a qui sont indignés parce que, voilà, on essaie de faire participer Tupac à un festival, on utilise son image. Alors, pourquoi pas utiliser Biggie pour faire la publicité de McDonald's? Pourquoi pas utiliser Amy Winehouse pour faire de la publicité pour de l'avocat, par exemple, les hologrammes?
C'est marrant ce que tu dis là, parce qu'il y a un épisode des Simpsons qui est inspiré d'un film dont je ne connais pas le nom, dans lequel, en fait, Homer Simpson est payé par le lobby de la publicité pour tuer des stars pour qu'ils puissent les remettre dans des publicités après.
Ah ouais. Sans leur consentement.
Mais je crois que c'est inspiré d'un film, à mon avis. Voilà. Un truc comme ça. Donc, je regarderai, tiens, si je retrouve pas des.
Mais tout à fait, c'est pertinent parce qu'il y a une éthique morale. Voilà, vu qu'on peut recréer des morts, on peut un peu faire n'importe quoi avec leur image, parce que c'est ça, c'est l'image de Tupac. Parce que. Imaginez-vous que avec Concept avait déjà réalisé quelques petits prouesses technologiques, notamment dans le film L'étrange histoire de Benjamin Button en 2008. Ils ont d'ailleurs reçu un Oscar pour ça, mais c'est pas passé, ça n'a pas fait un buzz mondial comme on l'aurait voulu, mais ça a fait un buzz avec Tupac. Donc ça dépend vraiment sur quelle image vous investissez. Et donc peut-être que voilà, au niveau éthique, peut-être on va un peu manquer de respect à certains personnages, à certains grands artistes, de les faire revenir maintenant.
Bah, surtout quand c'est pour se faire de la thune, quoi, encore plus sur leur dos. Voilà, quoi. Si la prestation est genre enregistrée pour ça, si l'artiste a donné son accord, puis qu'il crève et puis qu'on peut l'exploiter, pourquoi pas. Mais genre faire revenir un Beatles, un John Lennon qui va chanter n'importe quoi, ou on va le faire danser n'importe quoi.
Oui, c'est la question que je voulais poser.
De Tupac.
Oui, ça tient la route ou...
Ça a vraiment tenu la route, c'était vraiment bluffant. Pas pour tout le monde apparemment lors du festival, parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient plus en avant, qui n'arrivaient pas bien à voir les prouesses techniques. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la scène, il y avait un projecteur mis au-dessus de la scène, qui projetait sur un miroir qui était sur la scène, sur le sol en tout cas. Et entre, par exemple, Snoop Dogg et le public, il y avait un verre. Il y avait un verre transparent.
D'accord.
Et le reflet du projecteur qui reflétait sur le sol, qui repartait sur la vitre transparente, donnait l'image de Tupac. Et donc Snoop Dogg ne voyait pas Tupac, mais ils avaient juste un jeu d'interaction, de rôle qui faisait en sorte que voilà,
il y avait un jeu sur la scène.
Voilà, il y avait un jeu de scène, mais Snoop Dogg ne voyait pas Tupac. C'était juste une image qui était reprojetée sur une vitre. En face du public.
Tu veux dire que Snoop Dogg était Miss Météo à ce moment-là?
Il était Miss Météo.
C'est vrai que le jour où on arrive à faire des vrais hologrammes, pas consistants, mais complets, opaques,
sûr,
quoi, où on ne verrait pas à travers,
3D,
voilà,
où
on pourrait le voir de n'importe où, sera vraiment impressionnant.
Au Japon, il y a une star qui n'existe pas.
Miku Hatsune.
Oui, j'ai entendu cette histoire.
Il y a Miku Hatsune qui est un concept qui est écrit au Japon à base de programmes de synthèse vocale Vocaloid 2.
Les gens sont fans.
Oui, voilà. Ils ont vraiment l'impression qu'elle fait partie. Elle fait vraiment partie de la tradition.
Ah, ils l'exploitent en plus. Je crois que ça dépasse le cercle musical. Et elle va faire des publicités, des trucs.
Bien sûr,
incroyable.
On pourra pas des films aussi. Hein. Donc, en tout cas, est-ce que l'hologramme est une révolution positive ou négative qui va permettre d'un côté de nous ramener des artistes qu'on n'a pas connus? Par exemple, moi, j'ai pas connu Ray Charles. S'il vient en concert à l'ancienne Belgique ou bien à Forêt Nationale,
c'est cool, quoi.
Ça, c'est cool. Mais est-ce que, voilà, au niveau de l'exploitation financière et marketing, voilà, est-ce qu'on est dans le bon?
Et puis, il y a une vraie différence, hein, Damien. Bien sûr. Je te passe la parole à nouveau. Mm-hmm. C'est vraiment que là, on va écouter finalement du playback. On va écouter un CD
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que là,
on va avoir une prestation qui est faite pour.
On n'est pas devant du live, on est devant un playback. Oui, c'est ça.
Je pense que lorsqu'on a un public averti, lorsqu'on part voir un concert, lorsqu'on ira voir un concert hologramme, on est plus sur l'émotion. Donc on joue plus sur l'émotion, on s'en fout un peu des prouesses, que voilà, le mec, le son n'entend pas bien. On est juste, voilà, pour un mec qui n'a pas connu Tupac, par exemple, voir Tupac en live avec Snoop Dogg, ça lui fait quelque chose. Il est dans l'émotionnel.
Finalement, le morceau, on le connaît.
Oui, bien sûr, on le connaît. Ouais. Peut-être que l'hologramme, c'est voilà, le travail qui a été fait pendant 4 mois de découpage est issu de son image lors d'un concert. Et le concert, on peut le visionner sur YouTube en entier. Mais le fait de voir cette prouesse technique à côté de Snoop Dogg, qui est là, qui est encore vivant et qui a pris
ouais, très, donc finalement très on serait plus comme aller au cinéma que aller à un concert voilà, musical c'est qu'on entend aujourd'hui
voilà
quoi.
C'est le spectacle de voir voilà un Snoop Dogg qui a aujourd'hui la quarantaine et qui chante avec Tupac qui en a encore 23 à l'époque. C'est ça l'émotion sur laquelle on joue. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est positif pour l'avenir, je ne sais pas. En tout cas c'est assez spectaculaire et voilà.
Faudrait qu'il puisse appuyer sur les touches du clavier.
Après, c'est comme toutes les nouvelles technologies. Si on fait de la merde avec.
Voilà, ouais.
Bien sûr.
Voilà,
mais ça peut vraiment être génial aussi.
Mais clairement, par exemple, je reprends un excellent concert au Royal Albert Hall, par exemple, de Jimi Hendrix. Il est parfait, on sait qu'il est canon et qu'on peut le revoir comme on achète un DVD ou comme un CD. Et ben, c'est classe, c'est canon, on peut revoir, voilà, ils refont une tournée. Mm-hmm. Maintenant, il ne faut pas nous faire payer comme des bouffons 120 euros derrière.
Bien sûr.
Cinq fois le même concert, quoi.
Bien sûr.
Pour le moment, et quelle est la différence finalement?
Ce qui va arriver, si les hologrammes arrivent, c'est clair.
Oui, voilà, ok.
Donc, ça, il ne faut pas se faire d'espoir.
Ça coûtera moins cher.
100 euros.
Tu vas avoir les gars qui vont faire leur truc dans leur salle de bain, ça va être transmis par internet, ça va être diffusé sur scène.
Non. Enfin, plein de belles perspectives pour les hologrammes.
Une petite question depuis tout à l'heure.
Oui, non, mais c'est. Effectivement, la prouesse technique est intéressante. Mm-hmm. Moi, je pense faire revivre un artiste qui a disparu. Pourquoi pas pour un petit truc comme ça avec deux personnages qui se rencontrent alors qu'ils n'auraient pas dû se rencontrer, un hommage d'un artiste actuel qui veut faire un hommage à un artiste dans le passé.
Robbie Williams l'a fait par exemple sur son Swing When You're Winning, par exemple, il a chanté avec je ne sais plus comment, la célèbre crooner que tout le monde connaît de l'époque, et Sinatra, voilà, Frank Sinatra, et donc il a partagé un morceau, donc forcément c'est de la post-prod après quoi, mais il a chanté en chantant avec Sinatra quoi. Donc,
oui, non, mais là, à la limite, je dis pourquoi pas.
Le bluff,
c'est
là.
Mais c'est surtout, bon, voilà, t'es venu voir un artiste en scène et il te ramène un autre, un machin, il y a un effet de scène, je dis pourquoi pas. Maintenant, Jimi Hendrix, qu'on nous refasse le concert de Jimi Hendrix avec lui en machin.
Non, mais imaginons qu'il ait été, qu'à l'époque, la technologie existait et que donc ça a été enregistré à des fins de rediffusion plus tard, tu vois.
Oui, mais alors, dans
si
ces cas-là.
Si tout est possible, bah, on va voir un show en 3D, comme on dirait au cinéma finalement. Voilà. Je suis pas contre.
Mais à la limite, autant aller au cinéma. Dans ces cas-là, on sera dans de meilleures conditions que.
Mais en fait, c'est vraiment le jeu de son et lumière qui est aussi mis en place. Par exemple, si on fait revenir Michael Jackson en concert, l'hologramme de Michael Jackson en concert, à côté de l'hologramme Michael Jackson, il y aura des jeux de lumière, il y aura des danseuses, ouais, il y a un spectacle qui est créé autour de l'hologramme. C'est ça aussi qui est fort. Plus l'émotion, et n'oublions pas qu'on est avant tout dans l'émotion de revoir Michael en live, et plus l'émotion du son et lumière, ça, voilà, même moi, si ça arrive.
Il faut que la techno soit au point, quoi.
Il faut que ce soit au point, que ce soit canon. Parce qu'il suffit que ça, on se plante de une seconde que pour que voilà, tout part en vrille, et on voit vraiment que c'est du n'importe quoi, quoi. Donc il faut vraiment être vigilant.
Après, moi, ça me fait penser à ce que fait l'UGC. Avec les concerts de musique classique.
J'y pensais exactement à ça. La grosse différence, c'est que, alors, à ma connaissance, mais c'est peut-être, c'est du live, c'est-à-dire que c'est enregistré en live et tu le regardes en live dans une salle de ciné. J'ai envie de tester ça, un de ces quatre. Si je le fais, je vous en parlerai, je vous dirai si ça vaut le coup de faire ça. Parce que...
À vrai dire, la dernière fois, donc, mes parents ont été voir un truc comme ça, et visiblement, le concert avait déjà eu lieu. À mon avis, ils doivent avoir les bobines et les trucs.
Bah c'est clair que sur un écran géant avec le son qu'il y a dans un cinéma, c'est une condition optimale pour écouter une très très bonne bande son. Pardon.
C'est vrai que si c'est en direct, c'est encore autre chose.
Bon, après tout, c'est un nouveau style de spectacle, de divertissement. Faut peut-être pas le lier directement au concert même, parce que ça reste du musical. Voilà, pourquoi pas.
En dehors de ça, du Philharmonique, j'en ai écouté vendredi dernier ou le vendredi d'avant, au Flaget, donc une des meilleures salles du Flaget. C'est hallucinant. Mm-hmm. Je veux dire, c'est autre chose que de l'avoir sur un disque.
C'est d'ailleurs là qu'a été enregistrée la bande-son de Vie Artiste.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. C'est là qu'on tournait justement l'orchestre belge pour la bande-son de Vie Artiste qui a été vachement récompensée. C'est à Flaget. Eh bien, un grand merci, Darby. Donc, les hologrammes, assez intéressant comme sujet finalement. C'est d'actu. On espère en voir. Moi, du moins, ne fût-ce que pour la prouesse technique, ça serait marrant d'en voir. Maintenant, tout le business qui est autour, c'est une autre question.
En espérant que dans 100 ans, on ait podcast avec les hologrammes.
Le podcast hologramme, voilà.
Peut-être dans 100 ans, il y aura encore Justin Bieber.
Non, il n'est pas moyen.
Revivez. J'avais pas pensé à ce travers-là.
Ah ouais, parce que là, on a parlé de grandes stars, mais je suis certain qu'on préfère ne pas en voir.
Mais c'est personnel ce que tu dis.
Space Girl.
Peut-être que les stars de maintenant préparent déjà des post-concerts. On ne sait pas. Pour quand ils seront décédés, on ne sait pas.
La vie s'annonce bien sombre.
Voilà.
Allez, on passe à la suite.
This is the thought out in the sextet.
I doubt there's more than a handful of copies in all of North America.
But I know it. I know it.
That's it. The music from my dream. They're home.
Movements I wrote imagining us. Meeting again and again in different lives.
Alors, eh bien, je vais vous parler de Claude Atlas.
C'est beau.
Claude Atlas, le dernier film des Wachowski qu'ils ont fait avec notamment Tom Tyler. Alors, je le prononce très très mal. Tykwer. Moi, je suis nul. C'était Y-K-W-E-R.
Épelle-nous ce nom.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, c'est celui qui avait fait notamment Lola Rent ou Cours Lola, Cours.
Oula.
Voilà. Et donc, voilà, les Wachowski qui reviennent pour un gros film, quand même, parce que c'est un budget à 100 millions de dollars, quand même. Donc, c'est pas un petit budget. Et quand on voit le film, eh ben, c'est pas un petit film.
C'était le salaire de Tom Hanks ?
Non, c'est pas le salaire de Tom Hanks. C'est vraiment pas un petit film, c'est même un énorme film, un film, je dirais, magistral, un véritable château de cartes dressé et qui aurait pu très bien tomber très très facilement parce que c'était extrêmement périlleux de monter un projet pareil.
C'est quoi le synopsis ?
Alors, synopsis, à la base... En fait, c'est une adaptation d'un bouquin qui s'appelle « Cartographie des nuages », écrit par David Mitchell, et qui est paru en 2004. Et en fait, ça raconte 6 histoires différentes à travers les âges. Donc, nous avons en fait... nous avons 6 histoires. La première histoire qui se passe en 1849, qui va... qui raconte la traversée du Pacifique d'Adam Edwin. C'est un peu le côté histoire contre l'esclavage, etc. Bah, vous verrez, je vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais c'est un peu le roman d'aventure du 19e siècle. Et typiquement, c'est réalisé avec ce type d'image. Le deuxième se passe en 1936 et c'est une histoire d'un compositeur, d'un jeune compositeur qui va aller travailler auprès d'un maître et ces histoires, bah, vous verrez, c'est pareil, je vais pas vous raconter chaque histoire parce que sinon ça vous dévoilerait une grande partie du film, mais ça se passe en 1936. La troisième histoire, c'est en 1973 et c'est une enquête d'une journaliste à propos d'un espèce de scandale autour de l'énergie atomique. Voilà. La quatrième, elle est titrée comme l'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish. C'est assez drôle, c'est la partie assez drôle de liste. Bah c'est l'histoire drôle au milieu de toutes les autres, qui est un vieux bonhomme en fait qui se retrouve séquestré dans une maison de retraite.
Celui-là m'a bien fait marrer.
Il y a une autre histoire qui est en 2144, qui est en fait un truc complètement futuriste dans une néo-Séoul, complètement. Avec une histoire de clone, on n'est pas très loin d'un soleil vert d'ailleurs. Dans
ça
une autre histoire,
il parle de soleil vert. 2049, c'est ça ? Je ne sais plus maintenant.
Ouais, mais je ne l'ai pas vu celui-là. C'est un grand manque.
C'est 2149.
2149.
Ouais, mais il faisait vraiment penser à celui-là.
Mais en tout cas, belle vision du futur. Il y a des choses très intéressantes là-dedans. Moi, j'avais un peu peur que ça soit un peu tarte à la crème, mais en fait, ça marche assez bien. Voilà. Et puis une sixième histoire qui est en 2321 et qui est une sorte de post-apocalyptique. Voilà. Alors,
Évidemment, ces six histoires, elles sont racontées en même temps dans le film. Alors déjà...
elles se suivent?
Non, elles sont racontées en même temps. D'accord, c'est-à-dire qu'on va avoir un bout d'une histoire, et puis ça va suivre un bout d'une autre histoire, et puis ça va suivre un bout d'une autre histoire, et puis encore un bout d'une autre histoire, etc.
La Pulp Fiction, mais dans l'ordre, quoi.
Non, parce que c'est pas du tout dans...
C'est comme dans The Fountain.
Alors, j'ai pas vu The Fountain. Pas de chance. Et d'ailleurs, je compte bien le voir, parce que ce film d'Aronofsky, il faut quand même que je le voie. Ça fait une éternité. Non, j'ai pas vu The Fountain. La grosse différence, c'est qu'on a six histoires, d'accord ? Mais c'est pas un film choral où on va passer de l'un à l'autre avec le même genre de façon de filmer d'une histoire à l'autre et les histoires vont se répondre, etc. On n'est pas du tout dans ce type-là. On est dans, comment dire, comme si on avait réellement six films qu'on va mixer ensemble. Parce que chaque film, chaque histoire va avoir son grain, sa manière d'être filmé, sa manière de se raconter. Par exemple, l'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish, qui est le vieux qui se retrouve séquestré dans une maison de retraite, va avoir une voix off, être très drôle, et voilà, il va avoir un ton et un grain un peu un film anglais, etc. Voilà. Si on regarde l'histoire du jeune compositeur, là on va être dans un type de film complètement romantique, complètement différent, avec un étalonnage un peu dans les jaunes, etc. C'est très touchant. On est dans les films, des grands films de romantique, avec comme image de fond. Ce 1936, même si en fait c'est l'homosexualité, etc., tout ça qui est et j'y reviendrai d'ailleurs, qui est évoqué. Par exemple, celui qui se passe dans les années 70, là on est complètement avec du gros grain, avec la couleur que pouvaient avoir les films de cette époque-là, etc. Et la façon de filmer aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs films en un. Et monter, pas genre on va pas avoir une scène de la première histoire, une scène de la deuxième histoire, une scène de la troisième histoire, une scène, etc. C'est que les histoires vont s'entrechoquer et s'entremêler et passer de l'une à l'autre, etc. De manière magistrale, parce qu'en fait on pourrait être complètement perdu. On pourrait complètement perdre le fil, ne plus savoir ce qui se passe dans l'une, dans l'autre, etc. Ne plus comprendre, parce que six histoires c'est compliqué.
Ça nique un peu le cerveau quand même, non?
Il faut pas s'endormir, parce que si tu t'endors, je crois que t'es mort. Mais ça dure 2h48, je crois.
C'est assez long, quand même.
Ouais, c'est assez long.
Pour faire le tour de toutes les histoires et de comprendre.
Voilà. Et en fait, tu t'emmerdes pas une seconde. Bah, franchement, tu les vois pas passer, quoi. C'est clair. Alors, je vous conseille de le voir au cinéma, parce que c'est quand même un sacré travail d'image. Et je vous conseille de le voir en VO, surtout pas en VF, parce que j'ai vu le trailer en VF. J'ai failli vous le mettre, c'est pour ça que je vous l'ai mis.
Bonjour. D'ailleurs,
je vous ai mis le trailer en anglais au début, là. Mm-hmm. Parce que, en fait, j'ai essayé la VF et c'est tout simplement l'horreur. Les voix sont pas bonnes et on n'y croit pas. Alors, on n'y croit pas aussi parce que... Alors, il y a une chose qu'il faut un peu dire sur ce film, c'est que... alors, il y a une palette d'acteurs dans ce film qui est tout simplement hallucinante.
Voilà, la seule chose qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'on voit Alberi.
On la voit beaucoup. Parce qu'en fait, voilà, au niveau des acteurs principaux, il y a quand même Tom Hanks, Alberi. Alors j'essaye de prendre les plus connus, Grant, Suzanne Sarandon, Hugo Weaving, etc.
Est-ce qu'on n'a pas un effet du style, tu vois, on tombe dans une histoire qu'on a envie de suivre et finalement bien les autres, hein, finalement ben on attend juste qu'on revienne à l'histoire qui nous intéresse un petit
comme,
peu.
C'est pas comme cet autre, enfin il y a pas mal de films qui ont pris un peu ce genre de structure. Je pense à ce film avec Brad Pitt là où il se retrouvait en Tunisie et que c'est plusieurs histoires qui s'entrecroisent.
Non, on n'est pas dans un film choral ou un film avec plusieurs histoires qui machin. Là, on est vraiment.
C'était pas Crash d'ailleurs? Non.
On est vraiment. Ah oui, je vois le Babylone machin. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ce type de film parce que ce type de film, c'est un film avec plusieurs histoires racontées de la même façon qui s'entrecroisent, Magnolia, etc. Là, c'est vraiment plusieurs films les uns à côté des autres. Et on va vous raconter plusieurs histoires. Qui n'ont a priori aucun lien les unes par rapport aux autres, vraiment. Et pourtant, on va trouver au final ce lien. Et ce lien va se faire par l'écriture cinématographique. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment
Depuis longtemps, on se dit, ok, les Wachowski, ils ont fait Matrix. Ok, hein, ils ont fait ce truc-là. Et,
surtout Bond.
Oui, mais Bond, c'est un film classique. C'est un très bon film, mais c'est un film classique. Matrix, quand on l'a vu, moi je me souviens, quand je suis sorti, je me suis dit, waouh, j'ai vu un truc, quoi.
C'est une claque, ouais.
J'ai reçu une claque, et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque plein de films après, on s'en retrouvait référencé de Matrix. Bon, je parle pas du 1 et du 2, du 2 et du 3, parce que ça, c'est encore une autre histoire. Après, ils ont fait, comment il s'appelle déjà ce film, sur lequel on a eu une sacrée discussion, Seb et moi.
Ah oui, bah justement, j'ai vu qu'il était en BD, là, il y a pas longtemps, oui.
Speed Racer.
Ah non, c'était pas Speed Racer, non, parce que Speed Racer, ils l'ont fait encore après. Ils ont fait un film entre deux, avec le gars qui a le même visage que... Enfin, tu sais, cette espèce de masque, là, comme les gars sur Internet, là, les pirates informatiques d'Internet, là...
V pour Vendetta. V pour Vendetta.
Ils ont fait V pour Vendetta, et après, ils ont fait Speed Racer.
Oui. V pour Vendetta, c'est eux qui ont fait V pour Vendetta.
Ouais, ouais. Ah,
c'est marrant, ça. J'avais pas associé à eux. Bon, V pour Vendetta, c'est un film honnête. C'est pas un grand film, etc. Non, mais c'est un film honnête, et par rapport à la BD, c'est honnête. Voilà, c'est pas Matrix premier, quoi, du nom. Et ben, je trouve que là, avec Claude Atlas.
Tu sais, juste, tu dis c'est bon, c'est un film classique, c'est un sacré film. Hein.
Oui, c'est un sacré film.
Autant, justement, V pour Vendetta était un peu. Voilà, il était sympa, mais sans plus. Autant Bond, en fait, pas mal d'effets qu'on retrouve dans Matrix sont déjà dans Bond, en fait. Et ce film a eu un prix, il me semble, il a eu un Oscar ou un truc comme ça. Hein. C'est pas non plus le film anodin.
Ah, je m'y dis ça. Moi, c'est pareil. Hein. Quand je l'avais vu, je me suis dit, ça valait le coup.
Ce qui est intéressant aussi dans Claude Atlas, c'est le fait que dans chaque histoire, on trouve les mêmes personnages.
Oui,
les mêmes
j'allais y venir.
Ça fait énormément, en fait, ça joue sur la compréhension aussi de l'histoire.
Ah, tout à fait, ouais. Ouais, ça n'existe pas dans le bouquin d'origine. C'est une astuce ou quelque chose qu'ils ont voulu faire. Et effectivement, en fait, les différents acteurs vont jouer plusieurs rôles dans les histoires.
Ah ouais, d'accord.
Ce qui peut donner d'ailleurs un effet un peu grotesque, parce que il y a des fois, c'est prothèse-land, notamment quand on est à Néo-Séoul où ils ont tous les yeux tirés pour ressembler à des asiatiques, etc.
Ça peut pas être pire que le vieux dans Prométhée.
Non.
Je t'assure
que
non, mais t'as pas vu Prométhéeus, ça peut pas être pire.
Non, j'ai pas vu Prométhéeus, mais Tom Hanks à la fin, bien vieux, machin, etc. C'est quand même assez violent. Mais.
Et par contre, Hugo Weaving. En infirmière.
Alors pour ceux qui savent pas qui c'est Monsieur Smith dans les Matrix.
Oui, Elrond.
Dans le Seigneur des Anneaux. Alors ouais. Imaginez-le quand même.
En infirmière.
Avec 100 kilos de plus.
Non.
En infirmière, matrone, ça vaut la peine.
C'est un gag ce film.
Mais en fait, alors c'est ça qui est rigolo et c'est là où c'est un véritable château de cartes parce que ça aurait pu tomber en fait complètement. Parce que vous avez 6 histoires qu'on vous raconte de manière complètement différente, avec des styles différents. Avec les mêmes acteurs qu'on va grimer d'histoire en histoire, ça aurait été mal fait ou ça n'aurait pas tenu, on serait retrouvé avec quelque chose qui serait tombé directement et il serait devenu grotesque et en gros la sauce n'aurait pas prise et ça serait devenu un flop total. Et pourtant ça tient parce que c'est assumé, le fait que les acteurs ça soit les mêmes acteurs, au final tu comprends le sens du truc. C'est une histoire de réincarnation. Bon, je vous spoil pas à la fin, mais t'as une espèce d'histoire de karma, etc., et de suivi dans ce que font les gens les uns par rapport aux autres.
C'est en ça que je disais que, en tout cas, moi, j'ai peut-être parti des rares qui avaient vraiment bien aimé The Fountain, et de ce que j'avais lu du synopsis de Claude Atlas, ça rejoint un peu cette histoire de personnages, en fait, qui ont une âme qui passe d'un personnage à l'autre, une espèce de voie karmique, comme ça, qui passe à travers le temps.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est pas si simple que ça, dans Claude Atlas, mais je vais pas. Un de ces quatre, on pourra en raconter 2 ans plus tard quand tout le monde l'aura vu. Voilà, malheureusement.
Avec plaisir.
C'était trop de la merde.
Mais allez le voir. Je voulais dire un truc en plus, mais je ne sais plus quoi.
Un gros bisou.
Un gros bisou. Non, allez le voir, franchement, parce que. C'est quand même quelque chose que moi j'ai jamais vu.
clairement. Au niveau type de film, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et les Wachowski, en fait, ont eu beaucoup de mal à produire ce film. D'ailleurs, il a eu pas mal de producteurs européens pour pouvoir être tourné. Et si on ne va pas le voir, bah, ils ne pourront plus faire de film parce que ça deviendra de plus en plus compliqué. Donc, allez le voir, faites-en un vrai succès parce que ça vaut le coup. Et j'espère qu'ils nous reviendront encore avec... Avec d'autres choses, plein de bonnes choses, etc. En tout cas,
ce qui est vraiment bien avec eux, c'est que on peut pas leur reprocher. Ils testent tout le temps des nouvelles choses. Speed Racer, c'était bon. Moi, je t'ai déjà dit, je trouve que le film était pas génial, mais au moins ils ont testé un truc complètement bizarre. V pour Vendetta, c'est aussi un truc bizarre. Ouais. En fait, c'est des mecs qui restent pas sur leurs acquis. Ils auraient pu continuer à faire des suites à Matrix pendant 10 ans, ça aurait marché, quoi.
C'est clair.
Oui, c'est clair. Speed Racer, fallait oser faire ce truc-là.
Ouais, ouais.
Et Claude Atlas,
au niveau esthétique, etc. Comme tu le faisais remarquer, il y a vraiment des choses intéressantes.
Au niveau montage et au niveau effets spéciaux, il y a des trucs. Moi, j'ai pas
c'est complètement kitsch. Hein.
Ah, c'est super kitsch, mais la série dont c'est issu et Supra Kitsch, ils sont allés, ils ont respecté en fait le design du truc à la base. Quoi,
à quand Diabolo et Satanas adaptés pour
Donc allez-y avec l'œil carnivore, hein, comme on pourrait le dire. Vous n'irez pas le voir tout simplement et bêtement, si vous me passez l'expression, mais on ira le voir en connaissance de cause, Damien.
Oui, allez vraiment, vraiment, vraiment aller le voir.
Un beau spectacle télévisuel.
Cinématographique. Hein.
Cinématographique. Allez le voir au ciné, ça vaut le coup.
Si c'est encore au ciné.
Alors si c'est plus vite, ciné, allez-y vite.
Allez, écoute, terminez pas ce podcast, foncez au cinéma.
Vous foutez encore là d'ailleurs.
C'est vrai. Alors, ça.
Non, en allant sur internet, en fait, j'ai regardé un peu les commentaires parce que voilà. Et alors, une des choses qui m'a surpris. Et qu'on voit assez peu dans les films, en fait, quand on voit dans les commentaires de films, c'était « Ouais, ça fait la 6e fois que j'y suis allé, ça fait la 5e fois, ça fait la 10e fois que je viens de le voir. »
Je sais pas si c'est une référence, parce que Titanic...
Alors, je sais que c'est Titanic, c'était le cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même assez rare.
Mais t'as vu Titanic ?
Après, certains vont vous dire « Oui, ça m'a transformé, machin, etc. »
Je suis le même homme.
Non, non, oui, voilà, c'est ça. Non, alors, oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je fais un petit aparté sur le fait que Lana Wachowski est devenue une femme, était un homme avant, etc. Et je pense que dans ce film, elle met beaucoup d'elle, notamment au niveau de l'histoire qui se passe en 1936. Et au tout début du film, il y a une phrase dont je me souviens plus exactement l'intitulé exact, donc je vais pas vous la dire, mais si vous regardez le film, pensez à ça à ce moment-là, où on comprend sa démarche et pourquoi elle a fait ce film par rapport à son histoire personnelle. Et je trouve ça assez fort. Maintenant, heureusement, c'est pas une espèce, à la fin du film, c'est pas une espèce de, comment dire, de morale, alors c'est de réincarnation ou pseudo-chrétienne ou machin, etc. C'est un peu plus fin que ça, et je pense que justement, c'est pas seulement une histoire de réincarnation ou de machin, c'est surtout ce que chacun on peut faire, nous, petit grain de sable au milieu de l'univers. Et je trouve ça assez chouette. Voilà.
Bien. Claude Atlas, donc le film du moment à aller voir, conseillé par Damien. Un grand merci, Damien. On passe tout de suite à un autre style de cinématographe. Ça, on parle naturellement des mangas japonais avec Sylph. Kawaii ! Sylph, tu vas nous parler de manga. Et je pense pas qu'on ait vraiment abordé du manga pur et dur dans...
Il me semble qu'on avait déjà parlé d'un truc ou l'autre.
On avait parlé de Batman,
de comics,
de comics.
Moi, tout ce qui est animation en général, je m'y intéresse. Donc voilà. En fait, si c'est ça, j'avais fait un article sur notre site. J'ai fait 2-3 articles sur différents mangas, des films notamment, et notamment un shonen dont j'ai oublié le nom. Ça fait flipper parce que c'est hyper connu, mais bon, soit. On va pas s'attarder là-dessus.
C'est quoi un shonen ?
Ben justement, un shonen, en fait, ça, en traduction pure, je crois que ça veut simplement dire manga pour garçons. Mais en fait, c'est pas totalement la vraie traduction, parce que ça, c'est nous, petits européens. Mais en fait, ça veut plutôt dire manga pour ados. Et bon, en fait, là, l'histoire, c'est que, curieusement, il y a 3 grosses licences de manga qui ont été lancées vers milieu 2012, qui viennent de terminer leur premier ou deuxième arc très récemment, il y a une semaine ou deux. Et donc, je trouvais intéressant, en fait, de faire un petit récapitulatif de ce qu'on nous sort en manga et de voir un petit peu ce qui se passe, les suites, les préquels, les machins, les trucs des mangas qui reviennent au goût du jour 15 ans après.
C'est vrai qu'il y a des grosses références qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'on ne connaît pas forcément non plus.
Je faisais ça aussi en parallèle à la sortie du film Dragon Ball qui vient de ressortir au Japon en IMAX, etc., qui est en train de faire un véritable carton, qui s'appelle Le Combat des Dieux, je crois.
Qui est bon.
Je ne l'ai pas vu. Je crois que c'est relativement impossible à voir par ici, parce que c'est sorti qu'au Japon. Et puis voilà, mais bon, il faut savoir quand même que Dragon Ball, il n'y avait plus de film depuis presque 15 ans. Voire peut-être même plus, je ne sais plus exactement la date, enfin soit. Et là, donc, je vais revenir sur une licence.
Si, il y avait eu un film qu'il vaut mieux oublier, mais.
Ah oui, non, mais ça, je. Non, mais je parle de film en animation, hein. Je ne parle pas de cette sombre merde que, effectivement, j'ai demandé qu'on me fasse un trou dans le cerveau pour l'oublier. Ouais. Non, alors, je vais commencer en parlant d'une suite à un manga qu'on connaît tous, qui s'appelle Le Chevalier du Zodiac, et en japonais qui s'appelle Senseiya. Je vais vite refaire un petit historique. En fait, Les Chevaliers du Zodiac, ça a été écrit et dessiné par Masami Kurumada. Il y a eu énormément de suites, de préquels, de machins en bande dessinée, autant qu'en animation. Notamment, il y a un an ou deux, il y avait eu une série qui s'appelait Senseiya The Lost Canva, qui était juste fantastique. Il y a eu une suite aussi à la série que nous on a connue quand on était plus jeune, qui s'appelle Senseiya Hades, et donc qui raconte ce qui se passe après les histoires de Poséidon, etc. Et récemment, les studios de la Toy, les impitoyables studios de la Toy, les champions des bonnes grosses daubes commerciales, nous ont sorti Senseiya Omega. Et j'ai flippé. Parce que j'ai regardé 50 épisodes et ça a été pour moi un véritable supplice, limite une insulte à la série d'origine. Non seulement c'est horriblement mal animé et très très mal dessiné, mais bon, ça c'est pas encore le pire. Le scénario est une espèce, ça commence avec une histoire de chevalier à l'école, pour terminer avec une espèce de délire à la Naruto foireux. Enfin, c'est on sent vraiment, j'avais l'impression de voir les commerciaux qui sont derrière qui disent, bon là ce chevalier là tu vas l'appeler Haruto, et c'est véridique, il s'appelle vraiment Haruto parce que bon, ça fait comme Naruto, puis en même temps c'est un ninja, donc enfin j'avais l'impression de voir les ficelles commerciales qui étaient derrière, toute la démarche commerciale avec les chevaliers qui doivent paraître plus jeunes, c'est, le style doit être mis un peu au goût du jour, ils ont des armures, tu parlais du syndrome dans les MMO d'armure pyjama, ils ont tous des armures pyjama, enfin c'est pour le fan de la série d'origine, ça fait flipper. Le pire c'est que c'est pas vraiment violent, mais le pire c'est que c'est pas complètement naze non plus, parce qu'on sent que le studio qui est derrière, les mecs ils savent quand même animer, il y a des moments, des scènes qui sont assez épiques et tout ça, et qui sont pas trop mal, parce que moi j'ai quand même réussi à me taper 50 épisodes, mais il y avait des moments j'avais quand même envie de me taper la gueule contre les murs, parce que moi je suis un immense fan des Chevaliers du Zodiac, en tout cas le premier arc qui concerne que le sanctuaire. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu.
Oui, je me souviens, mais c'est encore en garde d'âme maintenant, parce que moi ça me paraissait.
Écoute, justement, je me suis dit, je vais quand même me faire l'avocat du diable, je vais quand même me mater les vieux épisodes et m'en mater une bonne vingtaine pour être bien sûr de ne pas raconter de conneries ici. Alors au niveau de la quantité d'animation, la nouvelle série, elle fait parfois mieux. Mais par contre, au niveau de la qualité de dessin, on est très 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 loin dans cette nouvelle série, sachant qu'il y a des moments, c'est vraiment mais horrible. Pour ceux qui ont vu la série, je suis désolé, mais il y a des personnages, ils sont hideux. Genre, je pense au Chevalier du Poisson, mais je me suis dit, mais
en comment même temps, est-il, les canons pareils.
Comment est-il possible dans un anime
jamais parti, hein.
À l'époque où,
il est pas frais, mon poisson.
Des animes, voilà. Non, mais c'est limite ça. C'est vraiment ça. Il est pas frais, mon poisson, quoi. Et donc, il y a des moments, c'est très bizarre. Cette série, elle chauffe complètement le chaud et le froid d'un épisode à l'autre. Elle passe du très décevant à un épisode qui te relance un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est une série qui est entièrement étudiée. Et alors là, le comble du comble, donc le premier arc, c'est terminé. Pour ceux qui ne savent pas que c'est un arc, en fait, c'est en gros une saison d'un manga.
Mm-hmm. C'est un arc narratif, c'est-à-dire on te raconte une histoire du début jusqu'à la fin, puis après on va passer sur une autre histoire.
Donc,
pour Dragon Ball, c'était il fallait trouver les 7 boules de cristal, voilà, une fois qu'on a trouvé les boules de cristal, on a terminé l'arc. Voilà.
C'est ça. Qui d'ailleurs, le premier, je pense qu'il fait que 10 épisodes, en fait, dans la première série de Dragon Ball, puis après il y en a un qui en fait 20, puis ainsi de suite. T'as croire qu'ils les ont augmentés le plus possible au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il est intéressant de parler de Dragon Ball parce que c'est la Toy aussi. Et si vous faites attention, en fait, ils ont sorti une nouvelle édition de Dragon Ball. Dragon Ball il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Dragon Ball Kai et qui est en fait une reprise de l'ancien. En fait, dans lequel simplement ils ont coupé toutes les parties débiles et qui avaient été rajoutées par la Toei pour faire pour reprendre exactement l'identité.
J'ai cru entendre parler de ce truc, ouais.
Du manga Toriyama. Moi, je les ai vus et c'est. Mais ça va 10 fois plus vite. Je pense que quand on est à l'épisode 60, dans la série de base, on est à l'épisode de 140. Quoi. Avec des plans qui n'en finissent pas, avec Vegeta qui se concentre et machin. Enfin bon, bref. Je vais pas parler de Dragon Ball. Mais ici, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel. Et notamment, Senseiya Lost Canva l'a vraiment prouvé parce que c'était vraiment un anime. Moi, je me rappelle à des moments, j'étais ému carrément, tellement je trouvais ça beau et bien fait et scénaristiquement intéressant. Ils l'ont arrêté en cours parce que ça coûtait trop cher. Alors que franchement, même au niveau du scénario, c'était très très bien fichu. J'avais même trouvé ça meilleur que la série d'origine. Et après, ils nous sortent ça. Et là, c'est le pompon. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est bâclé, le scénario est bâclé, enfin, etc. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais moi j'ai bien aimé. Oui, moi aussi, il y a des moments où j'ai bien aimé, mais j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Et là, ils ont recommencé le deuxième arc. Et alors, c'est très drôle parce que pour ceux qui ont connu la série d'origine, je sais pas si vous vous rappelez des Chevaliers d'Acier. Ils nous avaient sorti des mecs qui avaient des armures de moto et des armures de voiture. Et c'est la Toei qui avait voulu ça à l'époque et ça avait fait une levée de bouclier dans lequel ils s'étaient fait insulter. Donc on leur avait dit, non mais attendez, vous nous faites quoi là, etc. Et dans le nouvel arc dont le premier épisode est sorti au Japon jeudi, ils nous remettent les Chevaliers d'Acier. Donc je sais pas à quoi ça va évoluer, je sais en tout cas
que... Vous avez pas voulu la première fois.
On va vous le remettre. Je sais que Masami Kuromada n'est pas de la partie. C'est-à-dire que c'est complètement fait indépendant de ce. Enfin, j'espère que c'est fait indépendamment de sa volonté. À mon avis, il doit en pleurer parce que c'est. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment désastreux. J'avais dit ironiquement, histoire de mettre une note, que je mettais 3 sur 10. Qui sait, peut-être que le deuxième arc sera un peu meilleur que le premier, qu'on n'aura plus le droit à des plans interminables sur des personnages fixes, mal dessinés. Je ne sais pas. Enfin, soit. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé du tout. Et je trouve que c'est bien de reprendre des trucs au goût du jour et de faire des suites, mais si c'est pour mal le faire, moi je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Je préférerais mieux qu'ils remettent du budget dans Lost Canva. Enfin voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur Sensei Omega. Maintenant je vais passer sur Jojo Bizarre Adventure.
Je connais pas du tout, moi.
Déjà, le nom est
bizarre aventure.
Qui est une véritable curiosité. C'est aussi un shonen. Donc, c'est aussi un. Enfin, je vous disais que le shonen est un manga pour. Enfin, un type de manga pour les ados. En fait, le principe du shonen, on le connaît tous. Il y a un gars qui est un peu un élu, genre Sangoku, ou comme les Chevaliers du Zodiac, ou des choses comme ça, et qui doit arriver à une quête dans laquelle il va devoir se dépasser jusqu'à sa dernière limite. Jojo Bizarre Adventure, c'est un. Peu la même histoire, sauf que c'est très curieux parce que c'est compté de manière très particulière. C'est-à-dire que chaque arc de cette série raconte l'histoire de la famille Joestar. Alors, laissez tomber. Alors, il faut savoir un truc.
On saura tout. On saura tout.
Il faut savoir un truc, c'est que le mangaka qui a fait Hirohiko Araki est un styliste à la base et c'est un grand fan de musique occidentale. Et en fait, c'est bourré, c'est ça qui participe au décalage aussi, c'est bourré de références occidentales. Donc je suis presque sûr en fait que l'histoire de Joestar, il est possible qu'il soit tombé sur notre Joestar et qu'il ait décidé tout à coup machin, je sais pas. En tout cas, c'est plein de références à Led Zepp, à plein de trucs que les Japonais ne prennent jamais. Déjà, ça se passe en Europe, ça se passe jamais au Japon. À partir du troisième arc, il y a un personnage qui est japonais. Et en gros, ça reprend l'histoire de. Donc, ça commence. C'est un gars, en fait, qui est d'une famille riche et son père décide d'adopter un gars suite à une. Un enfant suite à une promesse. Et en fait, cet enfant lui pourrit la vie pour repiquer son héritage par la suite. Alors là, on se dit, mais dans quoi on est tombé? Enfin, c'est quoi cet anime débile? Ils sont tous musclés comme dans Quel le Survivant. Les scénarios sont kitsch. Enfin. Puis voilà. Mais il y a un truc, moi, qui m'a directement alerté quand j'ai vu ce manga-là. Donc, c'est le studio David Production, qui est un nouveau studio, en fait, qui a été fait à peu près fait. Pour ce manga-là et cette série-là. Enfin, je crois qu'ils ont sorti 2-3 autres choses assez obscures. Mais en fait, je connaissais ce studio parce que j'en avais entendu parler, sachant que c'est des anciens de Gonzo Productions qui ont fait ça. Et Gonzo Productions, non, ce n'est pas un truc pornographique. C'est un studio qui a fait Hellsing,
Gonzo.
Qui a fait énormément de mangas, et notamment Hellsing et Gantz, pour ceux qui connaissent, ouais. Qui sont quand même des mangas qui sont quand même pas mal fichus, qui ont un bon style graphique, etc. Et donc, du coup... ils sont séparés de ce studio-là parce qu'ils trouvaient leur optique trop commerciale. Et là, on se retrouve face à un manga dans lequel c'est du grand n'importe quoi au niveau esthétique. Moi, je me régale. C'est-à-dire que c'est des moments, ils vont venir remettre de la trame sur les personnages, les couleurs vont être fluo. Enfin, c'est déjà le Hirohiko Araki, c'est un malade. C'est-à-dire qu'il fait des personnages qui sont complètement débiles, avec des poses complètement hallucinantes, qui sont tous plus baraqués les uns que les autres, avec des colliers, avec des cœurs dessus et des trucs comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet anime de malade, quoi? Parce que le style graphique, il est complètement débile. Le rythme de l'anime, là encore plus, c'est-à-dire que les mecs gueulent tout le temps. Ils s'excitent avec des gros plans en contre-plongée, des machins comme ça.
J'adore ça.
À chaque fois, ça prend des proportions ou des machins absolument. C'est complètement hallucinant. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc l'histoire évolue à travers le temps et nous raconte l'histoire clé de chacun de ces personnages confrontés à des espèces de vampires qui datent d'avant l'origine de l'humanité et qui sont en fait des vampires qui sont à l'origine de toutes les plus grandes peuplades, aztèques et autres machins. Et alors c'est très curieux parce que c'est pas des vampires comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire que c'est des vampires qui sont capables d'absorber le corps des autres personnes par leur propre corps, c'est-à-dire qu'ils mordent pas leur cible, ils les assimilent. Et du coup ça leur donne des pouvoirs limite divins, et en fait la seule manière de les combattre c'est ce qu'ils appellent l'onde. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est dû à la respiration. Bon, mais ça va loin. Hein. Et c'est de cette espèce d'histoire de frères qui veulent se piquer l'héritage, ça part une histoire de vampire parce que le mec se rend compte qu'il n'y arrivera pas. Alors du coup, il fait un pacte avec un vampire ou je sais plus quoi. En mettant un masque sur sa gueule, il devient vampire. Alors il se met à tuer tout le monde et l'autre veut se venger. Alors il apprend l'onde auprès d'un vieux maître, ainsi de suite. Mais c'est le scénario, c'est du grand n'importe quoi. Après, à la fin de la première saison, le personnage principal meurt. Hop, on se retrouve.
Tu nous spoil.
Non, mais on le sait parce que, à chaque fin de saison, ou le méchant est mort, ou le personnage principal est mort. Et ça, c'est très bizarre parce que dans les mangas, on n'a pas l'habitude de ça.
Bah non.
On se dit, mais qu'est-ce que cette histoire? Tu vois, pourquoi le personnage que je kiffais, quelque chose comme ça m'attacher, vient de crever, quoi.
James Bond, Bond est mort.
Voilà, c'est un peu ça, quoi. Deuxième saison, hop, on se retrouve dans les années 30. Là, on a affaire à un gars qui, on sait même pas s'il est descendant du précédent, etc. Et c'est reparti pour une histoire rocambolesque avec des vampires qui tombent dans des volcans, ils essaient de tuer dans les volcans, mais les mecs ils résistent. Enfin, après ils sont projetés dans l'espace, des trucs, mais c'est hallucinant. Moi je me régale, à chaque fois que je regarde ce truc-là, tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est chaque fois ça prend des proportions, mais grand guignolesque avec des trucs, oh non, yo, machin, et des trucs pas possibles avec des typos qui viennent sur l'écran et des t'assistes à un spectacle complètement vénère avec des musiques qui passent du rock à l'électro machin qui sont super bien imbriquées. Franchement c'est un manga qui me plaît beaucoup parce qu'il va complètement à l'encontre du reste. Il est finalement très manga dans le fond parce qu'on a l'impression de voir une espèce de Ken le survivant mais complètement fait par un malade en fait. Déjà Ken le survivant c'était assez prodigieux par moment, mais voilà, franchement ça je ne peux que le conseiller, sachant que c'est une série en fait qui à la base a déjà été déclinée plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'en parlais, parce que c'est une espèce de reprise, en même temps c'est un préquel, dans le sens où la série qui a été faite en 1997 reprenait uniquement le troisième arc. Après ils ont fait un film qui reprenait une partie du deuxième arc, et ainsi de suite. Et là en fait, ce qui est génial avec cette nouvelle série, c'est que les studios David Productions ont repris dès le début de l'histoire. Et donc du coup, ça permet aux gens, moi j'avais connu la série par le troisième arc dans les années 90, ça me permet de redécouvrir en fait tout ce qu'il y avait avant et de comprendre ce que j'avais vu à l'époque. Donc c'est assez dingue, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc là c'est pas vraiment une suite, mais c'est plus un préquel et une reprise en même temps. Et là, depuis une semaine, pareil, ils ont terminé le deuxième arc, on passe au troisième, enfin on a une espèce d'annonce du troisième, dans lequel on revoit le personnage qu'on avait vu dans les années 90, qui est le troisième descendant en fait de la famille Joestar. Un grand moment.
Ça m'éclate à chaque fois.
Il va être content.
Donc voilà, c'est une série vraiment qui est vraiment intéressante parce que, comme je vous dis, elle va à l'encontre du statut habituel du shonen et des trucs comme ça. Il se passe des trucs de dingue et on comprend rien. Et c'est fou, complètement fou. Enfin voilà, moi je trouve ça vraiment très drôle.
Ouais, tu me donnes envie là, je t'avoue.
Ouais, moi aussi.
Attention,
je vais foncer voir.
À prendre avec des pincettes parce que quand tu vas voir le truc, tu vas flipper. Hein.
Ouais, bah, j'imagine bien.
Voilà. Et après, on passe à quelque chose de beaucoup plus classique, mais moi qui me tient vraiment à cœur. Une série qui s'appelle Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Qui est une série que pas mal de gens connaissent parce qu'elle est sortie début 2000. En fait, il y a une première série qui s'appelait Hunter x Hunter qui était sortie de 62 épisodes et qui était inachevée. Donc là, ils avaient sorti 3 OAV par la suite pour essayer de raconter la fin de l'histoire parce qu'ils n'avaient pas pu, ça n'avait pas marché et ainsi de suite. Globalement, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Gun qui cherche son père. Il vit sur une île, son père est parti quand il était tout gosse et il veut chercher son père. Et donc en partant à la recherche de son père, il décide de devenir Hunter, d'où le nom de la série. Sachant que c'est très bizarre comme série parce que ça, comment dire, c'est une série dans laquelle chaque nouvel arc n'a rien à voir avec le précédent. Mais à un point dans lequel il y a des moments où on se demande un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le premier arc, Gon veut chercher son père, donc veut devenir Hunter parce qu'il sait que son père est Hunter. Le Hunter, pour vite faire un petit récapitulatif, c'est des chefs cuisiniers, des archéologues, des zoologues, des justiciers ou des consultants. Donc c'est très très curieux. C'est, ça se passe dans une espèce de monde imaginaire complètement barré avec des dinosaures, des trucs comme ça. Et donc il passe cet examen de Hunter avec des épreuves plus surréalistes les unes que les autres, dignes des entraînements de Sangoku. Et là le deuxième arc commence et c'est une histoire de vengeance qui reprend des personnages de la première saison comme personnage principal mais pas le héros, ce qui est très curieux. Le héros gravite autour de l'histoire, est un élément de l'histoire, mais c'est pas lui le point central, c'est Killua, qui est un de ses amis, et qui en fait recherche les membres de l'araignée, si je me rappelle bien, qui est une organisation qui a tué tout son village, parce que dans son village, ils avaient tous des yeux rouges, et que c'était extrêmement recherché par les collectionneurs, alors ils ont tué tous les gens du village, et le seul à avoir survécu, c'est Killua. Et, non pardon, Kurapika. Les noms à la con, hein. et donc il veut retrouver ces gars-là et se venger d'eux. Et du coup, le manga qui à la base, avec quelques moments trash, part dans un truc complètement glauque de vengeance un peu étrange. Alors là, on comprend plus trop parce que le timbre de la série change complètement. C'est-à-dire qu'en parallèle à ça, il y a les gars de cette association l'araignée qui veulent faire un casse mondial. Au milieu d'un repère de mafieux international qui se regroupent tous les ans pour vendre leurs profits. Et ça, le timbre de la série change complètement. C'est-à-dire qu'on passe d'une série dans laquelle on est un peu dans le shonen à la Dragon Ball avec les épreuves et les machins, pour arriver dans quelque chose dans lequel on te parle d'un gars qui veut vraiment tuer les gars, etc., qui finit par en choper quelques-uns et qui les torture et qui les tue. Là, tu te dis waouh, dans quoi c'est parti là ? Je comprends plus grand-chose. Et puis tout à coup, à la fin de cette histoire-là, il y a une espèce de twist qui fait que les personnages se séparent. L'association en question de l'araignée n'est pas vraiment dissoute, mais un petit peu. Et donc, le gars a l'impression qu'il s'est vengé. Mais en fait, on se rend compte, pas vraiment, c'est un peu curieux. Et là, les deux héros de l'histoire, enfin, le premier, le Gon, donc le héros de l'histoire principale, rejoint ses amis. Ils vont faire un combat d'arts martiaux. Donc, ça, c'est le troisième arc. Donc, ça, c'est un tournoi à la Dragon Ball dans lequel ils vont s'entraîner, etc. Parce qu'il y a une histoire de pouvoir derrière que je ne vous expliquerai pas parce que c'est extrêmement compliqué avec des pouvoirs qui permettent de se protéger.
Ils les ennuient un petit peu qu'on découvre quand même.
Et puis, on arrive sur le quatrième arc qui se passe dans un jeu vidéo. Dans lequel les personnages de l'histoire rentrent dans un jeu vidéo qui n'est pas vraiment. Enfin, voilà, je vais pas vous gâcher l'intrigue, etc. Et voilà. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est un manga qui est vraiment intéressant, parce qu'il change tout le temps. C'est-à-dire que, contrairement à Dragon Ball, dans lequel on suit une montée en puissance d'un personnage, finalement, de manière très classique, il va sur des planètes, il bute des gros monstres, machin, ou dans Dragon Ball, dans lequel ils doivent poursuivre un méchant. Dans cette série-là, en fait, on est tout le temps surpris. C'est-à-dire que. Et c'est pour ça que moi, c'est ma série préférée du moment. C'est-à-dire que d'un épisode à l'autre, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais c'est impossible de savoir ce qui va se passer. Y a toujours un rebondissement, il y a toujours un twist, un machin. Surtout que les combats dans cette série-là, parce qu'il y en a beaucoup, sont toujours des espèces d'épreuves mentales. C'est-à-dire que le personnage essaie de calculer des choses à l'avance pour pouvoir vaincre ses adversaires, parce que sinon, il n'y arriverait pas. Un peu comme dans Jojo, d'ailleurs. Dans Jojo, les combats seraient comme ça aussi. Et dans Hunter x Hunter, c'est ça, mais encore plus poussé. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus fort qui va gagner. C'est le plus malin, en fait. Et ça, c'est très drôle parce qu'il y a des rebondissements parfois qui sont complètement farfelus, quoi. Genre le gars qui s'est fait péter un bras par une attaque, mais il avait calculé en fait qu'il allait faire un truc par la suite qui lui permettrait de gagner. Et tu dis, le mec est complètement taré, quoi. Faire des trucs comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça, quoi. Le gars, il gagne l'épreuve, pas parce qu'il a réussi à arriver au bout de l'épreuve, mais parce qu'en fait, il a prouvé qu'il avait de la volonté ou des choses comme ça. Et donc, c'est une série qui est intéressante parce que non seulement elle est extrêmement bien dessinée, elle a été reprise par le studio Madhouse, qui sont à l'origine de beaucoup de mangas très connus comme Metropolis, Tokyo Godfather, Paprika ou Ninja Scroll. Donc, la qualité d'anime est juste. C'est
pas n'importe quoi.
C'est oui, là, c'est du lourd.
Le scénario de base, comme je vous dis, il rebondit tout le temps. Les personnages principaux sont hyper attachants. C'est vraiment un manga. Chaque semaine, moi, je le suis et je suis hyper impatient de voir le prochain épisode, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a ça emprunte un petit peu dans tous les trucs. C'est moins original que Jojo, c'est plus classique, mais ça vaut vraiment le coup aussi.
Et alors là, tu nous parles en fait d'un reboot de la série ou tu nous parlais...
C'est un vrai reboot, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une série de 62 épisodes et ils reprennent exactement ces 62 épisodes, mais avec le style de Studio Madhouse, donc un style beaucoup plus propre et beaucoup plus fidèle en fait au manga d'origine.
D'accord, donc tu nous conseilles de voir le reboot plutôt que la série des années 90 alors.
En fait, la série de... plutôt début 2000. En fait, fin année 90, début 2000. Ouais. En fait, la série d'origine, elle fait un peu comme Naruto. C'est-à-dire qu'il y a des arcs qui n'ont rien à voir, en fait. Genre, il y a des parties dont le gars, il part dans des délires parce qu'à l'époque, tout n'avait pas été écrit, parce que voilà. Tout comme dans Naruto. Hein. D'ailleurs, Naruto, si quelqu'un suit chaque épisode chaque semaine, il va péter un plomb. Hein. Moi, je trouve ça insupportable parce que une semaine sur deux, ils vont te remettre un épisode qui n'a rien à voir. Et du coup, c'est pour ça que les gens trouvent cette série nulle alors qu'elle est excellente, tu vois. Mais donc, du coup, ici, ce qui est vraiment bien avec les studios Madhouse, c'est que comme tout le manga est presque écrit maintenant, ils peuvent se permettre de tracer, c'est-à-dire de ne pas traîner sur des épisodes interminables, raconter l'histoire comme le mangaka l'a voulu, etc. Et du coup, c'est très efficace et très intéressant. Et moi, qui connaissais la série d'origine, donc qui avait vu la série début années 2000, j'ai pas arrêté d'être surpris avec cette nouvelle série, parce qu'en fait, ils reprennent la même histoire, mais c'est tellement mieux conté, tellement mieux fichu, que ça remarche encore mieux, en fait.
Bon, je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est le deuxième titre dont tu nous as parlé, Jojo Bizarre Aventure, qui me tente le plus. Je sais pas pourquoi.
Ouais, mais même si Comics Hunter, ça faisait
le côté déconne.
J'ai vu le premier en fait. J'ai vu le premier que j'avais bien aimé, mais je suis pas du style à suivre beaucoup le genre de manga comme ça, mais celui-là m'avait.
Clairement, les deux sont passionnants. Oh.
Jojo, la différence, c'est que c'est court en fait. C'est qu'il y a, je crois qu'il y a 20 épisodes jusqu'à présent et ça raconte beaucoup et très vite.
Mais ici, Hunter x Hunter, on a quoi
70 déjà. Mais. Franchement, je crois que c'est 70, mais franchement, ça se regarde. Mais c'est beaucoup plus classique. Moi, j'aime bien, ça fonctionne bien, mais c'est un peu comme cet autre manga dont je ne me rappellerai pas, dont j'avais fait le test, c'est pas grave. Fairy Tail, voilà, c'est ça. C'est un peu comme Fairy Tail, sauf que c'est moins répétitif et le scénario est beaucoup mieux fichu. Mais c'est vrai qu'au niveau de la curiosité, Jojo, c'est bien plus intéressant, quoi. Même graphiquement, c'est n'importe quoi. Enfin. Jamais vu un manga comme ça.
Jojo Bizarre Adventure et Hunter x Hunter, donc 2012. Le reboot de la série, c'est les deux séries manga animées qu'on nous propose cette semaine avec Sylph. Alors évitez Saint Seiya Omega ou aller le voir juste pour la blague, c'est ça ? Côté quand même 3 sur 10 sur mon petit papier. C'est pas conseillé.
Ah non, moi j'ai vraiment eu peur. Quoi. Il y a certains épisodes, je me demandais pourquoi je regardais ça. Quoi. C'est vraiment parce que je suis fan de Saint Seiya et que je voulais voir tout ce qui s'était fait autour, mais
bah, ça vous fera économiser du temps, les amis.
Ça donnait du supplice, quoi.
Regardez les bonnes choses. Bon, eh bien voilà qui amène au terme de ce quatrième épisode déjà. Un épisode un petit peu plus long que les autres. J'ai pas calculé parce qu'on a fait des pauses entre et donc du coup j'ai juste la taille de mes tranches, hein, des blocs. Mais là on est quand même à 40 minutes sur les deux derniers sujets. Donc vous allez avoir un bon petit podcast. Enfin, en tout cas, vous l'avez déjà eu si vous arrivez jusqu'ici.
Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce numéro. Effectivement, plus long que les autres,
mais tellement meilleur.
Tellement meilleur avec les
plus
clics.
De goût.
Avec
voilà.
Plus de goût. Promis, on revient pour le cinquième.
Un grand plaisir.
Ouais.
D'ici 2-3 semaines, comme d'habitude.
Exactement.
Allez, un grand merci à Damien, donc à Luc,
ciao.
À forcément Darby pour ses sujets musicaux et à Sylph.
Salut.
Voilà. Ciao, ciao. We'll be right back.